minutes. C'est bon là. Donc il y a énormément de choses à dire. Donc je passerai assez vite. On laissera certains points de côté pour la discussion si vous voulez après. En fait, dans l'année qui va venir, l'année universitaire qui va venir, je vais traiter ce sujet-là sous forme d'atelier, le même sujet en une journée complète, avec interaction avec les gens, etc., avec du grand public, hein, pas des gens spécialement zététiques. S'il y en a d'entre vous qui souhaitent participer, c'est très volontiers. C'est dans le cadre d'une association, l'association Initiative Plurielle, qui attaque sa deuxième année. J'étais un peu dans les fondateurs de ce truc-là. Et je ferai deux journées, une qui sera un samedi et une autre un lundi ou un jeudi, de façon à offrir la possibilité. Genre, alors ça sera en petit comité, hein, on sera entre 12, 18, 20, pas plus, hein, pour que ça soit très interactif. Donc c'est une possibilité, si vous voulez, vraiment pour aller au fond du sujet, vraiment discuter dans le détail, avec des gens qui n'ont pas du tout de notion précise du sujet, qui ont des idées, parce que tout le monde a des idées sur ce sujet. Voilà, donc je vous signale ça. Alors, le sujet, c'est la médecine pour notre santé. De quoi avons-nous besoin, de preuves ou de croyances? Vous voyez que l'aborde la question délibérément, je l'ai mis sur le plan du point de vue du patient potentiel ou du patient existant, c'est-à-dire de nous, hein, c'est nous, la société, les gens de la société, de quoi on a besoin. Hein, c'est ça qui est important, c'est pas ce qui vient de l'extérieur et les trucs parachutés. Donc on est là, on se pose des questions, on a une offre extrêmement variée, extrêmement contradictoire pour s'occuper de notre chère santé, hein, qui nous tient à cœur, et là-dedans, on ne sait pas trop. Donc comment est-ce qu'on peut voir clair là-dedans? Qu'est-ce qui est bon pour nous, ou pas? Donc posons-nous la question, en essayant d'éviter les a priori, d'avoir une bonne ouverture d'esprit, parce que c'est ça qui permet d'avancer. Alors, nous vivons à une ère de médecine moderne, tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où elle a une efficacité absolument invraisemblable, puisque vous voyez bien l'espérance de vie que nous avons, l'état dans lequel nous sommes à un âge parfois avancé. Il n'y a pas que la médecine qui est responsable de ça. Il y a aussi le style de vie, l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. L'absence de guerre en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas. Mais beaucoup la médecine, beaucoup la médecine. Et ça, ces progrès de la médecine dite moderne, si vous ramenez toute l'histoire de l'homme en une année de 365 jours, sur cette année-là, ces progrès, c'est la dernière heure de ces 365 jours. Ça s'est fait, c'est extrêmement récent, c'est rien, c'est tout petit par rapport à toute l'histoire de l'homme. Donc il faut être bien conscient de ça. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale à peu près, depuis la Première Guerre, que réellement on est dans cette ère de médecine moderne, même si entre les années 1880 et 1940, il y a eu des progrès qui ont été fondateurs pour la suite. En attendant, en termes de services donnés pour la médecine, c'est vraiment après 1945 que ça s'est passé. Donc ça évolue extrêmement lentement. Et la médecine moderne, elle vient pas de rien. Elle vient de millénaires, ou de siècles, ou de décennies d'évolution d'une médecine qui faisait ce qu'elle pouvait. Elle faisait avec ce qu'il y avait, avec les moyens de penser qu'on avait. Et ben, les gens, ils voulaient s'occuper de leur santé. Ils faisaient au mieux. Mais ils avaient un manque terrible de connaissances. Ils avaient un manque d'outils. Ils avaient un manque de méthodes. Alors quand je parle de la médecine, attention, les gens pensent tout de suite médicaments. Les médicaments sont très importants, mais il y a tout le reste. Il y a les moyens de diagnostic biologique, il y a l'imagerie qui est extraordinaire. Tout ça, ça transforme la médecine. Et sans bon diagnostic, on a du mal à faire de la thérapeutique. C'est également toutes les prises en charge non médicamenteuses, tout ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. C'est énorme ce qu'il peut y avoir à notre disposition. C'est la chirurgie. C'est la chirurgie extraordinaire. Qui fait qu'on remplace des choses, etc., et qu'on répare. Et c'est toutes les interventions non-invasives qui ont transformé complètement notre vie. Donc c'est tout ça, et d'autres choses encore, tout des tas de prises en charge variées qui font la médecine actuelle. Ce n'est pas que le médicament. On n'oubliera pas le médicament, bien évidemment. Alors, manque de connaissances. C'est évident qu'on avait des idées complètement erronées. On pensait que le cœur était le siège des émotions, du courage, etc. On sait bien que c'est archi-faux. Le cœur, c'est une pompe, point barre. C'est le cerveau qui est important. La circulation dans le sang, on sait que le sang circule depuis pas très longtemps, depuis très peu de temps. Donc comment pouvait-on élaborer des diagnostics et des solutions thérapeutiques si on ne savait pas comment ça fonctionnait. Les agents infectieux, on ne savait pas qu'il y avait des agents infectieux, on ne savait pas qu'il y avait une contagiosité possible. C'est quand même la fin du 19e siècle. Comment voulez-vous traiter des maladies bactériennes ou du paludisme ou du je ne sais pas quoi si vous ne savez pas qu'il y a des bactéries ou qu'il y a des plasmodium falciparum ou qu'il y a des parasites, des virus, des champignons? C'est impossible d'adresser la question. Donc il est bien évident qu'en cette absence de connaissances énorme, flagrante, aveuglante, on ne pouvait pas faire grand-chose. On faisait des choses quand même, parce qu'il y avait une demande. Puis on aime bien avoir le contrôle des choses. Donc on essayait de contrôler, comme on faisait de l'astrologie, on regardait les astres, tout ça, parce qu'on n'avait que ça à sa disposition. Donc comment pouvait-on faire de la médecine? On ne pouvait pas faire de la médecine réellement efficace et sérieuse. On n'avait pas d'outils, on ne savait pas comment déjà diagnostiquer, qu'est-ce qu'on faisait, on regardait le malade, on regardait son teint, il était pâle, il était jaune, il était gris, il était tout ce qu'on veut, il était rouge, congestionné, c'est tout. Alors on s'intéressait beaucoup à des choses comme l'allure de la fièvre et l'allure du pouls. Mais l'allure de la fièvre, alors on étudiait, on pensait qu'il y avait des livres entiers sur l'allure de la fièvre. Mais l'allure de la fièvre, elle apporte quasiment rien comme information, en dehors d'une fièvre tierce ou quarte qu'on peut avoir dans les paludismes avec reviviscence, en dehors de la dissociation du pouls et de la température de la fièvre typhoïde, en dehors du V grippal, en dehors de choses comme ça qui sont très anecdotiques, le fait de regarder l'allure de la fièvre, ça n'aide pas du tout pour faire un diagnostic et pour traiter. Le pouls, il y avait des traités sur le pouls, on étudiait le pouls. Donc on étudiait comment il est, etc. Et on en faisait toute une affaire. Mais si on étudie le pouls des patients, à part le fait qu'il est accéléré ou pas, ou qu'il y a des troubles du rythme, on n'apprend pas grand-chose. Encore en dehors du fameux pouls dicrote de la typhoïde, il y a des choses comme ça, mais c'est totalement anecdotique. Donc en fait, ça ne servait à rien. Mais on n'avait que ça. Donc on regardait, on passait un temps fou là-dessus. Les urines, regardez les urines. Vous entendez? Alors les urines, on regardait ce qu'on avait, les selles, les urines, tout ça, les urines. Alors il y avait des traités sur les urines, on les regardait, on les mirait, on les fumait, on les goûtait. Ça apportait rien quasiment, en dehors d'un ictère, d'une hépatite virale, ou d'une hépatite avec des urines très foncées, en dehors d'urine extrêmement sucrée parce qu'il y avait un diabète extrêmement hors contrôle, parce qu'on ne contrôlait pas les diabètes, on ne savait même pas ce que c'était. En dehors de quelques trucs comme ça, on voyait des fois des urines troubles, peut-être, tiens, il y avait une infection urinaire très avancée. On avait des choses comme ça, mais c'était quasiment rien. Mais on prétendait avoir une idée complète de la santé du patient et pouvoir faire des traitements en regardant les urines. Donc, voilà ce qu'on avait. Hein, on faisait. Voilà, alors après, il y a eu les diagnostics biologiques, l'imagerie, bien évidemment, tout a changé. En termes d'outils, ça c'est les outils diagnostiques et pronostiques. Les outils thérapeutiques, on n'avait rien, donc on prenait ce qu'on avait, c'est-à-dire on avait des végétaux, des minéraux, des animaux, hein, en gros c'est ce qu'on a dans la nature, on en prenait, on essayait, on se disait tiens, peut-être que ça peut marcher, donc on avait plein de pratiques qui étaient dérivées de ce qu'on avait sous la main. Hein. Donc on faisait au mieux et bien évidemment nous n'allons pas blâmer nos ancêtres d'avoir fait ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils avaient. Mais c'était quand même pas grand-chose. Alors il y avait la magie, hein, on a toujours aimé faire des incantations, des pratiques magiques, donc il y avait beaucoup de magie dans toutes les civilisations, dans toutes les latitudes, hein, dans toutes les époques. On avait ça, et puis on pouvait utiliser l'astrologie, les astres, tout ça. Voilà des traités sur les fièvres, vous voyez par exemple, c'était des livres entiers, hein. Moi j'en ai quelques-uns parce que j'aime bien les vieux livres sur la médecine. Traité sur le pouls, vous voyez, voilà, on glosait pendant un gros bouquin sur l'étude du pouls. Ça c'est les urines, bon vous connaissez tout ça, mais enfin c'est très amusant. On n'avait pas non plus de méthode, de méthodologie d'approche. Donc, on faisait des observations. Les médecins qui faisaient un peu avancer les choses, qui réfléchissaient et qui proposaient des solutions, ils regardaient quelques cas qu'ils avaient dans leur clientèle, ils envoyaient un, puis peut-être un deuxième, et ils disaient, tiens, il doit se passer ça, ou tel truc doit être efficace. Mais c'était des cas extrêmement limités, c'était ce qu'on appelle en médecine des histoires de chasse. Il est bien évident que sur des cas très limités, on fait énormément d'erreurs. donc des témoignages, des cas individuels qui étaient rapportés. Hein, Charcot, il racontait, il montrait devant tout le monde, un patient, il fait venir le patient devant tout le monde, l'hystérie, voilà, on voit l'hystérie, tout ça. Voilà, ça, c'était ça, qui faisait avancer, c'était ça, les démonstrations. Alors, il n'y avait pas de méthode au sens de regrouper de façon efficace des patients ayant certes des symptômes apparentés pour en créer des maladies. On le faisait, mais avec des méthodes extrêmement embryonnaires et limitées. Et puis, on faisait des relations de cause à effet. Or, faire une relation de cause à effet, enfin, vous le savez ici, c'est compliqué. Hein, c'est pas parce qu'il y a coïncidence chronologique entre deux événements qu'il y a relation de cause à effet. Mais c'est vrai qu'il y avait des raccourcis extraordinaires. Et on passait d'une constatation à une autre en établissant une relation de cause à effet sans sourciller. Voilà, on extrapolait, on généralisait à partir de petits exemples. Alors bien évidemment, il y en avait d'autres qui étaient dans une autre ville, dans un autre pays, eux, ils fonctionnaient pareil. Et puis, mais ils ne voyaient pas la même chose, parce qu'ils avaient quelques cas. Et donc, du coup, il y avait des différences extraordinaires de théorie, de point de vue, etc. Il y avait des écoles en médecine. Une école, quand on était dans l'école, on croyait ce qui était dans cette école. Mais l'école d'à côté, elle pouvait dire complètement le contraire. Et il ne s'agissait pas dans l'école à côté de dire. Donc il y avait des chapelles. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vérité, il y avait plein de vérités. Et quand il y a plein de vérités, c'est qu'il n'y en a aucune qui est bonne. C'est ça qui se passait. Donc, alors, une autre chose importante aussi dans la méthodologie ou l'absence de méthodologie, c'est la force de la tradition, le poids de la tradition. Encore, vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vont dire, ah ben oui, mais attendez, tel truc, ça fait 2000 ans que ça existe, ou 3000 ans, donc ça résistait au siècle, donc forcément, c'est bon. Il est évident que c'est archi-faux. Il faut voir le nombre de choses auxquelles on croyait il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, auxquelles des gens croient ensemble, qui sont des âneries énormes. Et je vais vous en citer un certain nombre. Donc, c'est tout ça qui fait que l'absence de raisonnement a mené les gens dans des voies de travers, dans lesquels ils pouvaient que s'égarer et surtout ne pas avancer, ne pas guérir, ne pas traiter les patients correctement. Voilà, donc les écoles de médecine, ça j'en ai parlé. On faisait des diagnostics fantaisistes, je dis, on parle de fièvre, on ne sait pas qu'il y a des virus et des maladies, on est bien avancé, ou des maladies inflammatoires. Il y avait des théories physiopathologiques, on disait, voilà, il y a quelqu'un qui avait une idée, un jour il devait se réveiller le matin. Et puis il avait une idée fulgurante, il disait, voilà, j'ai une théorie, la théorie du professeur machin. Bon, on ne sait pas d'où ça venait, c'était fumeux, mais c'était... Et les gens adhéraient, parce qu'ils le disaient avec conviction. Il y avait des traitements étonnants, bon, les saignées, les purgations, hein, ça, c'est quand même récent qu'on arrête de saigner les gens et les purger. Mais les purgations, ça existait encore, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc ça ne marchait pas bien. On avait une espérance de vie qui était en gros de 35 ans à 40 ans, et les gens, à 35-40 ans, ils n'étaient pas en bon état. Parce que ce qui est important, en fin de compte, c'est le résultat. C'est comment ça va. Le but, c'est que les gens aillent bien. Alors, dans les croyances classiques, ce qu'on appelait ces croyances populaires, qui étaient tellement établies dans l'inconscient collectif, dans le conscient collectif, qu'il était invraisemblable de les remettre en question... Il y a les idées reçues, mais c'est incroyable, il y en a des milliers. Hein, bon, des grands exemples, c'est la saignée, bien évidemment, les baignades dans le Gange. Combien de fois vous avez pu entendre dire « Ah oui, c'est extraordinaire, avec toute la population qui a le manque d'hygiène, il n'y a pas d'épidémie dans le Gange, etc. » C'est une absurdité totale. Il y a des épidémies de diarrhée infectieuse à ne pas savoir qu'en faire dans le delta du Gange. C'est quand même la base de l'essaimage mondial du choléra, le Gange. Donc tout ça, c'est des idées mais qu'on peut difficilement remettre en cause. Parce que c'est établi. On dit comme ça. Alors on vous dit dans une discussion de salon, ah oui, mais dans le Gange, il n'y a pas d'épidémie, alors que donc il y a quelque chose qui se passe, qui nous dépasse. Et on le dit, voilà. Bon, alors on accepte. Bon, mais ces affirmations-là n'ont aucun sens. Les accouchements et la pleine lune, mais c'est juste des choses pour dire. Si vous demandez aujourd'hui à une sage-femme, qui est vraiment calter, hein, qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, qui a fait des milliers d'accouchements, vous lui demandez si, à son avis, il y a un rapport entre les phases lunaires et le nombre d'accouchements. Je veux dire, bien évidemment, en période de pleine lune, on est débordé, on déborde de patients, etc. C'est évident, elle va vous le dire, mais avec une assurance. Et puis vous demandez à une autre, c'est pareil. Vous dites, elle sait ça, elle voit ça tous les jours, elle sait bien. Donc comment allez-vous mettre en question une affirmation donnée avec autant de conviction sincère? Alors, les accouchements et la pleine lune, bah, c'est pas très compliqué de regarder si une relation, il suffit de les compter, les accouchements. On compte, et il y a eu plusieurs études qui ont été faites dans le monde, dont une qui a porté sur 40 millions d'accouchements. Il y en a d'autres, plusieurs qui ont porté sur plusieurs millions d'accouchements. Il y en a eu au Canada, il y en a eu en France, il y en a eu en Australie ou je sais pas où. Eh bien, il n'y a aucune relation entre les phases lunaires et le nombre d'accouchements. C'est une idée reçue avec une conviction établie qui fait que même les personnes qui sont exposées à l'événement vont penser qu'il y a une relation, parce que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, c'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation d'hypothèse, c'est-à-dire que quand on a une croyance dans quelque chose, tous les événements, tout ce qu'on va voir, va être retenu s'il alimente la croyance. Et s'il alimente la croyance, on ne va pas le voir. Soit on va le minimiser, soit on va complètement l'ignorer. Ça marche dans tout ce qu'on veut. Mais pour l'histoire des accouchements de la pleine lune, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Hein, j'en ai discuté avec une amie sage-femme il y a un ou deux ans. Elle était tellement convaincue qu'on puisse mettre ça en question. C'était inimaginable pour elle. Donc c'est important. Après, bon, c'est bon de manger du poisson, le phosphore pour la mémoire. Les épinards sont riches en fer, on sait bien que c'était une erreur de dosage. On s'était trompé d'une raison 10. La masturbation rend sourd. On va maigrir si on mange des ananas, que les antibiotiques fatiguent. Tout ça, c'est des absurdités totales. Le stress est responsable du ulcère gastro-duodénal. Bon, on sait quand même que c'est une bactérie, Helicobacter pylori, qui est responsable des ulcères gastro-duodénaux. Et on sait que si on la traite par le traitement antibiotique voulu pendant la durée voulue, eh ben, l'ulcère guérit. On fait une fibroscopie avant, on voit l'ulcère, on prélève, on voit qu'il y a Helicobacter pylori qui est dedans et on fait pousser. On donne, je ne sais plus maintenant combien, 16 ou 2 mois d'antibiotiques, ou amoxicilline, riflagil, ou rien. Et on refait une fibroscopie. Après, il n'y a plus d'ulcère. Voilà, ça marche très bien, c'est démontré dans tous les sens. Mais c'est tellement acquis que l'ulcère gastro-duodénal est lié au stress, parce qu'on n'avait rien d'autre, on ne savait pas. On trouve toujours une raison pour les gens d'être stressés. Et l'estomac, on dit « ah ». Voilà. Donc tout ça, c'est des idées totalement reçues. Les cheveux, les ongles qui continuent à pousser après la mort. Et tout le monde pense ça. En fait, c'est pas vrai. Ça sous-entend que c'est une espèce de processus de croissance qui continue. Non, c'est la peau qui se rétracte. Donc du coup, on a l'impression qu'ils sont plus longs. C'est des choses stupides. Nous naissons avec un nombre fixe et limité de cellules nerveuses. Moi, j'ai appris ça à la fac. Il y a quelques mois, il y a quelques années, enfin un peu plus. C'est comme ça, on a un stock, donc on va en perdre, et voilà. Bon, maintenant, d'abord, il y a la plasticité cérébrale, qui est un concept récent. On sait que à nombre de neurones égaux, il y a des nouvelles connexions qui vont se créer, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi de nouvelles, probablement de nouveaux neurones qui se créent. Mais comment pouvait-on, quand même, il y a 40 ans ou 50 ans, affirmer qu'on naissait avec un nombre fixe et limité de cellules nerveuses et comment pouvait-on affirmer ça? Qui s'est amusé à compter les cellules nerveuses dans un organisme et les compter à un moment, et puis les compter 10 ans plus tard, etc., pour voir qu'il n'y en avait pas de nouvelles? Mais c'est une prétention extraordinaire. Mais c'était une affirmation inouïe, mais totalement incontestable. Et bien, c'est faux. Alors, pour des raisons que je ne sais pas, on sait actuellement qu'il y en a des nouvelles. Bon, il ne faut pas se baigner après avoir mangé, ça nous a assez embêté dans nos jeux.
Les gens disent l'histoire de se baigner, et des gens très sérieux disent que c'est une histoire de température du corps.
Oui, mais je ne voudrais pas entrer trop dans le détail. Je cite juste des exemples. Hein. Voilà, parce que moi, je m'en fous un peu de savoir s'il faut se baigner ou pas après avoir mangé. C'est juste pour dire, là on peut discuter et tout, mais sinon on va passer du temps sur des détails, hein, d'accord. Mais moi j'aime bien qu'on en parle. La crise de foie, c'est un truc qu'on a baigné là-dedans. Vous entendez parler de crise de foie actuellement? C'est fini ça. Ça a disparu la crise de foie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était une maladie la crise de foie. Ah ben il fait une crise de foie. Le foie il n'avait rien à voir là-dedans. C'était français. À l'étranger, ça n'existait pas. Mais chez nous, la crise de foie, c'était extrêmement installé. Une crise de foie, on avait le diagnostic, on était content. Ah, il n'y en a plus. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mystère et boule de gomme. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des idées reçues, mais qui étaient tellement... Ce qu'il faut voir, c'est la solidité de l'ancrage de ces idées-là et le côté incontestable. Et il y en a plein comme ça. Ah oui, le placenta, oui, il fallait. Dans les campagnes, mais dans beaucoup d'endroits, et je pense que ça doit se faire encore un peu, on allait enterrer le placenta au fond du jardin, machin, parce que ce serait... Bon, mais plein de choses. Et il fallait le faire. Si on ne faisait pas, on était criminel. Voilà. Il y a donc, voilà, donc tout ça, toutes ces croyances anciennes, il y en a à l'appel. C'est juste quelques exemples. On voit bien que c'est pas parce que c'est ancien et c'est confirmé par la tradition que c'est vrai. Du tout, du tout, du tout. Donc comment sortir de ça? Et c'est bien la question de comment arriver à la médecine actuelle, dont on est content d'avoir, pour la plupart d'entre nous. Cela dit, quand on a les choses, après, on n'en veut plus parce qu'on est trop gâté. Hein, ça, c'est le problème. Mais bon, en attendant, il faut d'abord s'assurer que quand on dit quelque chose, il y a des preuves, avec une méthodologie fiable. Ça, première chose, où sont vos preuves pour affirmer votre truc? Parce que là, du coup, on va dégonfler beaucoup de choses. Et on va retenir, c'est dommage, hein, ça va être très triste. On va éliminer des tas de choses extrêmement sexy, mais malheureusement, c'est comme ça. Quand il n'y a pas cette preuve, eh ben on le reconnaît. Ah bon, on ne sait pas. On n'a pas cette preuve. Bon, eh ben tant pis, on n'est pas obligé de savoir. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Par contre, en médecine, on va dire là, on ne sait pas. Eh ben on va peut-être se dire, tiens, ça serait intéressant de travailler, d'avoir un plan d'action solide pour essayer de savoir. Parce qu'il y a des patients qui aimeraient bien qu'on sache parce qu'il y a leur vie ou leur bon état qui en dépend. Donc, il faut savoir reconnaître qu'on ne sait pas. Par contre, il ne faut peut-être pas en rester là et se dire, tiens, là on va travailler. Hein. Il faut confronter les avis, c'est-à-dire qu'il faut toujours challenger un point de vue ou même une étude, hein, parce qu'aujourd'hui, les vérités en médecine, elles sont mondiales. Il n'y a pas de différence entre Singapour, Buenos Aires, Ottawa ou Johannesburg ou Cracovie, il n'y a pas de différence. Les gens pensent la même chose, parce qu'ils se parlent, ils communiquent dans les congrès, il y a des publications, et il n'y a pas de vérité. S'il y a des preuves pour quelque chose qui sont vérifiées dans tous ces endroits-là, eh ben, il n'y a pas le choix. C'est pas, on n'y croit pas. On est devant l'évidence. Ce n'est pas une croyance. C'est une acceptation de fait. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Alors, quand on n'a pas les preuves, bah, il peut y avoir des croyances pendant un moment, mais jusqu'au moment où on espère avoir établi les preuves. Alors, il faut accepter qu'il y ait de nouvelles notions qui arrivent aussi. Donc, il faut de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que... si on a des, on pense certaines choses, on a non pas des croyances mais des idées, parce qu'on a certaines données, et qu'il apparaît de nouvelles données, de nouvelles connaissances scientifiques, physiopathologiques ou de nouvelles études thérapeutiques, et qu'on voit que l'idée qu'on avait doit être un peu changée, hein, doit évoluer, voire être contredite, eh ben on la contredit, et c'est pas grave, et au contraire on est très content de se contredire, ça veut dire qu'on évolue, ça veut dire qu'on est un peu moins idiot. Donc, et quand quelque chose est prouvé, on le prend. On s'en fiche. Après, si on comprend pas pourquoi, mais si les faits sont établis dans différents endroits, avec la bonne méthodologie, on ne gobe pas n'importe quoi, avec des méthodologies vérifiables, auditables, dans des endroits différents, avec différentes équipes, etc., et que réellement, il y a un truc qui est archi-établi, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, on verra plus tard pourquoi. C'est pas grave non plus. On n'a pas toujours... On aime bien avoir tout. C'est-à-dire avoir les faits, les vérifier, les prouver, puis en même temps se dire avoir toute la physiopathologie derrière et les mécanismes. Si on n'a pas le mécanisme, tant pis. Alors, bien évidemment, une des dérives qu'on peut avoir, c'est d'avoir une idée, de voir un mécanisme et d'en conclure qu'il doit y avoir des faits qui vont avec. Ça, c'est très courant. C'est la pire des erreurs. Le mécanisme, c'est le mécanisme. Mais il ne remplace pas les faits. La question, c'est est-ce que le fait est établi ou pas? S'il est établi, c'est la base. Mais bien établi. Alors, pour en sortir, il y a des moyens, bien sûr, qui sont le moyen fondamental, c'est les statistiques et c'est l'application des lois de probabilité et raisonnement. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans des cas individuels, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que pour un cas, il y a une telle variabilité de cas individuels qu'on ne sait jamais ce qui se passerait si on prend un traitement, par exemple, ou une stratégie thérapeutique. On va l'appliquer à un patient donné, il va guérir ou il ne va pas guérir. Donc on va en conclure que le traitement marche ou qu'il ne marche pas, d'une manière générale. Eh bien non, parce que si on n'avait pas donné le traitement, peut-être que le patient aurait guéri aussi. Il y a des cas extraordinaires en médecine, qu'on reconnaît, tout le monde ne répond pas de la même façon. Donc en fait, on est dans une notion, quand on est devant un patient, on se moque des cas individuels. Parce que on ne sait pas dans quel cas individuel est le patient. On ne sait pas ce qui va lui arriver, lui. Donc, les cas individuels des autres, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la population générale. Prenons, par exemple, un cancer du sein. Un cancer du sein, admettons, je vais vous donner des chiffres qui sont faux, mais juste pour le raisonnement, et puis on peut l'appliquer à n'importe quelle pathologie. Admettons, mes chiffres ne sont pas complètement délirants, que avant tout traitement, cancer du sein, c'était mortel, hein, quasiment tout le temps, c'était tout le temps mortel, ou mettons peut-être dans 97% des cas, puis il y avait 3% des cas qui guérissaient. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas tout. Quand vous avez une patiente qui a un cancer du sein, après un stade ou un autre, bien évidemment, vous allez penser quoi? Vous allez vous dire, ah ben je ne vais pas lui donner de chimiothérapie, elle va peut-être perdre ses cheveux, ses machins, ses trucs, elle va avoir mal au ventre et tout. Et je vais l'envoyer en Inde faire de la médecine ayurvédique ou des trucs comme ça. Parce que la chimiothérapie, oh là là, là c'est pas bon, tout ça. Donc vous pariez qu'elle est dans les 3% de patients qui vont guérir spontanément. Parce que y en a qui guérissent spontanément. Et vous aurez toujours le cas qu'on va vous raconter. Oh, elle a refusé toute chimiothérapie, elle était contre tout ça. Elle est allée voir le gourou au Rajasthan, et elle est revenue, elle avait guéri de son truc. Donc elle a bien fait. Donc du coup, ça devient une preuve. Et ça, c'est une chose que j'ai entendue il y a 6 mois d'un ami. Enfin, on entend des choses quand même extraordinairement invraisemblables sur le plan du bon sens. Là, si vous êtes devant un patient ou si vous êtes la patiente, vous allez vous dire, bah, je suis peut-être plutôt dans les 97% que dans les 3%. Donc je vais peut-être prendre ma chimiothérapie, parce que si ma chimiothérapie guérit 90% des cas, mais 90% ne va peut-être pas guérir, il y a peut-être 10% qui vont échapper. On accepte donc ça. On est obligé, si on veut faire un pari sur une stratégie thérapeutique et quelque chose qu'on va apporter aux patients, on est obligé de raisonner statistique, de raisonner sur un collectif et non pas sur des cas individuels. Sinon, on dit n'importe quoi. Et bien évidemment, comme on a dit pour les accouchements et la lune, on va retenir que les cas, bien évidemment, particuliers. Hein, s'il y a une femme qui guérit spontanément de son cancer du sein parce qu'elle a refusé les chimios, on va retenir qu'elle. On va oublier toutes celles qui n'ont pas fait de chimio et qui l'ont payé très cher. C'est comme ça que ça se passe dans le mental des gens. Alors donc, le problème, c'est que pour ça, il faut accumuler des données sérieuses, vérifier et revérifier dans tous les sens et dans différentes équipes et différents pays. Il ne faut jamais se fier à une seule étude, parce qu'il peut y avoir une erreur. Puis il y a peut-être un facteur humain. C'est ce que j'ai mis en bas. Il faut se méfier de la nature humaine. Vous avez des équipes peut-être très réputées, ben peut-être que là, ils ont besoin de publier dans les grandes revues, ils sont en retard ou je ne sais pas quoi. Ils vont bâcler un peu, parce que comme ils savent que de toute façon ils sont très reconnus, puis ils vont peut-être aller un peu vite, ils vont peut-être un peu superficiels. Ça arrive, c'est le facteur humain qui est toujours là. Donc il y a toujours des êtres humains qui sont derrière les choses, et le grand professeur machin, réputé, hyper solide, tout ça, bah, peut-être qu'un jour il va déraper, il va faire une erreur. Donc l'argument d'autorité, il faut l'oublier, ça n'existe plus en médecine, ça ne doit plus exister. Et puis il y a des gens qui trichent, parce que la nature humaine est des gens très connus, très connus pour leur éthique, machin, peut-être qu'un jour, ils vont avoir la tentation de tricher. Donc, ils vont tricher, on va s'en rendre compte après. Voilà. Donc, attention, on n'accepte pas une étude comme ça. On l'audite, on la vérifie. Il y a des processus, il y a des démarches de qualité qu'il faut faire, il y a des bonnes pratiques cliniques, des bonnes pratiques de tout ce qu'on veut. Il y a des règles qui doivent être bien claires, bien appliquées, et dont on doit vérifier que l'application est bonne. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir des choses qui fait qu'on dérive un tout petit peu par rapport à la vérité. Mais ce petit peu de dérive peut suffire à dire des erreurs énormes. Donc, il faut qu'il y ait des preuves venant de différents endroits qui soient concordantes. Il faut qu'on confronte ces points de vue. Donc, il y a plein d'échanges internationaux, il y a des conférences de consensus au niveau des pays, à l'intérieur des pays et au niveau international. Donc, c'est les conférences de consensus qui vont réunir des experts qui ne sont pas du tout de la même chapelle, du même truc, qui vont là, qui vont étudier tout ce qui a été fait, qui vont critiquer les études, qui vont en arrondir eux-mêmes, qui vont se mettre d'accord et dire, voilà, aujourd'hui, il y a telle et telle chose qui est établie, telle et telle chose, ça a l'air établi, mais ce n'est pas complètement sûr, ou telle ou telle chose, non, on n'a pas les éléments. Et on arrive à ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves, qui est la médecine qui, aujourd'hui, régit toutes les stratégies thérapeutiques au niveau mondial et qui sont appliquées par le médecin du coin, parce que s'il ne le fait pas, s'il n'applique pas les consignes de la haute autorité de santé, de la HAS, et les conférences de consensus, vous les avez sur Internet, sur le site de la HAS, et s'il fait une fantaisie par rapport aux guidelines, et puis que le patient s'en trouve mal, et que le patient apprend que, ou sa famille, il peut être attaqué, et il va perdre. parce qu'il a fait des fantaisies par rapport à des guidelines bien établies. Donc, le médecin qui est un peu au fait de tout ça, il va dire, moi je suis les trucs, parce que si je fais mes fantaisies comme je faisais avant, parce qu'avant qu'on ait ces règles-là, avant qu'on ait cette judiciarisation de la relation patient-médecin, ça peut lui coûter cher. Alors, bien sûr, les cas individuels ou l'intuition, ça n'a jamais fait le début d'une preuve, on est d'accord. Mais attention, il ne faut pas les oublier, parce que en tant que médecin, on va peut-être avoir une idée. Tiens, c'est troublant quand même, je trouve un truc. Donc je trouve que, tel produit pourrait être bon pour les gens qui sont intolérants au gluten, ou le baclofène, ça c'est bon pour les sevrages tabagiques, ou je ne sais, ou tel nouveau produit dans le sida, etc. Donc il a une impression, je donne un anti-produit pour l'hypertension artérielle qui s'appelle le minoxidil, tiens, j'ai vu que ça fait pousser les cheveux chez certains de mes patients, tiens, c'est intéressant. Oh, et alors on a une impression. Par contre, on va peut-être, sur cette idée-là, lancer des vraies études. Et après, on va montrer qu'effectivement, le minoxidil faire pousser les cheveux, on va pouvoir le donner en traitement dans la calvitie. Parce que déjà, on fait ces observations individuelles qui n'avaient aucune valeur en soi, mais qui pouvaient être le début d'une idée pour faire des études sérieuses qui, elles-mêmes, vont peut-être générer les preuves qui vont permettre d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc, sans validation, les observations individuelles ou les intuitions, ça vaut que dalle. Par contre, si on ne les a pas, eh bien, on ne va jamais sortir de ce qu'on a. Or, il faut bien quand même qu'on trouve des nouvelles choses, parce que la collectivité n'est pas totalement satisfaite pour sa santé. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Donc, n'oublions pas l'intuition et les observations individuelles. Bon, je vais peut-être passer très rapidement sur l'historique quand même, parce qu'on a un problème de temps. C'est dommage, parce que ça, c'est tous les éléments qui font que la collectivité, en fait, en l'occurrence occidentale, et principalement d'ailleurs anglo-saxonne, principalement britannique, il faut reconnaître, est sortie de cette façon de fonctionner ancienne. Et vous voyez que ça date déjà autour de 1800. Donc c'est à la fois très récent, mais en même temps, ça fait un petit moment que ça marinait sans arriver. Donc l'histoire de la saignée, c'était quand même terrible quand même de saigner les gens, parce qu'on avait des théories d'humeur, il y avait des humeurs, il y avait les quatre grandes humeurs qui étaient le sang, donc il y avait le caractère sanguin, il y avait la bile, c'était le caractère biliaire, il y avait les bilieux, il y avait la rate, c'était l'humeur noire, l'atrabile, donc le caractère atrabilaire, ça vient de ça. Puis on avait un quatrième, je ne sais plus lequel, la lymphe. Donc c'était les quatre grandes humeurs qui régissaient des théories vraisemblables. Donc c'est le caractère lymphatique. Ça venait lymphatique par rapport à la lymphe. Enfin, c'était comme ça, c'était établi. Hein. Et on basait les trucs. Alors on saignait, on éliminait les toxiques, on éliminait des trucs. Bon, c'est comme ça que George Washington, quand même, a été tué par des saignées. Hein. À force de lui enlever un demi-litre de sang par étape, on l'a tué. Il avait résisté au paludisme, à la tuberculose, à je ne sais pas quoi, mais il a été tué par les saignées. Et bon, on s'est dit quand même, et l'histoire de Washington, quand même, a été importante, parce que on s'est dit quand même, peut-être qu'on a un peu déconné. Et puis c'est vrai que sur les champs de bataille, quand même, quand on avait des blessés exsangues, et qu'on les traitait en leur refaisant des saignées, et qu'il y avait une hécatombe, je veux dire, avec un peu de bon sens, on pouvait s'interroger. C'est ce qu'a fait M. Hamilton avec l'armée britannique. Il s'est dit quand même, c'est pas bien. Donc il a fait des groupes de patients, de gens, et puis il y en a qu'on a saigné, d'autres qu'on n'a pas saigné. Bon, il a une survie bien meilleure chez ceux qui n'étaient pas saignés. Donc on a commencé à faire des essais thérapeutiques, on a commencé à faire des groupes et à essayer d'établir. On n'était pas dans les statistiques, on n'était pas encore dans la rigueur, mais il y avait déjà un début de méthodologie. Comme l'histoire du scorbut, c'est quand même, faut pas oublier quand même que dans les marines de guerre, ou pas de guerre d'ailleurs, ou marchandes, c'est le scorbut qui tuait les marins, c'était pas tellement la guerre elle-même ni les combats. Donc le scorbut, ça tuait, mais grave. Donc, James Lind, il a pris 12 patients, 12 marins ayant un scorbut, il a fait des groupes de deux. Bon, c'est pas des gros groupes, mais c'est déjà ça, c'était un début de raisonnement. Il s'est dit peut-être qu'il y a un truc dans l'alimentation, et puis il leur a donné des aliments différents. Voilà, ils avaient un scorbut, donc ils allaient mourir. Et bien sur les... Il y avait un groupe qui avait du jus de citron. Et bien les deux qui étaient dans ce groupe-là, ils ont survécu. Dans les autres, ça a été l'hécatombe. Il y a été quelque chose. Donc ça a été un début de méthodologie comparative pour essayer de voir ce qui se passe. Alors c'était tellement tranché qu'il n'y avait pas besoin forcément d'un effectif énorme, parce qu'on n'a pas toujours des différences aussi tranchées. Là, c'était « je meurs ou je meurs pas hein. ». Donc, c'est facile à compter. Donc, il y a des débuts de méthodologie. Semmelweis à Vienne, avec la fièvre puerpérale. C'est vrai, quand on avait un tiers des femmes qui mouraient en couche, dans un service, un peu moins dans l'autre, il s'est demandé si c'était pas bien, finalement, que les obstétriciens, que les médecins accoucheurs, après avoir fait des autopsies, se lavent les mains plutôt que d'aller tout de suite faire l'accouchement. Et il a vu que la fièvre puerpérale, qui est une septicémie de la femme qui vient d'accoucher due à un streptocoque du groupe B, on a vu que ça se transmettait et que voilà, c'était simplement une maladie infectieuse mais ça tuait quand même un tiers des femmes. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand on allait accoucher, on savait qu'on avait quand même pas mal de chances de pas en revenir. Voilà, bon, et puis alors Florence Nightingale, au niveau hygiène, une infirmière mythique, elle a travaillé sur les conditions sanitaires, sur l'hygiène. Cancer du poumon et tabagisme. On ne savait pas qu'il y avait une relation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, il y a eu une flambée de cancer du poumon aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais plus. Et on s'est dit quand même, c'est curieux. Ça. Et il a eu l'idée de faire une relation. Donc il a pris 30 000 médecins. Il a suivi pendant longtemps. Il y en a qui fumaient, il y en a qui ne fumaient pas. Il a fait des groupes. Et puis il a vu que ceux qui fumaient, tout étant égal par ailleurs, ceux qui fumaient, avaient un risque de cancer du poumon qui était multiplié par 20. Donc il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Mais c'est récent, hein, ce rapport. Tout ça, il y avait des débuts de méthodologie, en sachant que ces études-là, elles ne valaient pas grand-chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils méthodologiques. Donc pour en sortir, tout ça, je suis toujours comment sortir d'une espèce d'empirisme basé sur les observations individuelles et des relations de cause à effet hasardeuses, avec ces premiers prémices déjà, ces débuts de raisonnement et de méthodologie, on est monté à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, ça a été en écossais, Cochrane, c'est-à-dire toujours les anglo-saxons. Hein. On est peut-être rationnel en France et on a de la méthode après. On a eu Claude Bernard et tout ça, mais c'est quand même les Anglais qui ont fait avancer les choses. Donc, il y a eu toute une méthodologie qui a été développée et qui a été ensuite transférée au Canada. C'est au Canada que ça s'est développé avec un réseau qui s'appelle la Cochrane Collaboration, avec 30 000 collaborateurs dans le monde entier. Et ces gens-là ont des bases de données extraordinaires et étudient et font des relations. Et ça date des années 80, le début. Vous voyez comme c'est récent. Et sans le travail de la Cochrane Collaboration, la médecine actuelle ne serait pas du tout ce qu'elle est. Donc ce travail fantastique, fait, en l'occurrence, c'est le monde entier. Bon, il se trouve qu'il y a une base canadienne, mais maintenant c'est mondial, hein, la Cochrane Collaboration. Il y a eu tout un travail sur les essais contrôlés, randomisés, etc., la méthodologie rigoureuse et les données, et l'étude de ce qui existait dans la littérature, qui répondait ou pas à de bons critères méthodologiques. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? Voilà, donc c'était le bilan critique systématique, en fait, le principe de la Cochrane Collaboration. On fait le bilan, on regarde, on est très critique par rapport à tout. Et vraiment, pour retenir un truc, il faut vraiment qu'on l'ait passé sur le grill dans tous les sens avant d'accepter une vérité ou une autre. Donc, je vais vous parler un petit peu de la médecine basée sur les preuves, qui est notre médecine actuelle. Il faut d'abord bien formuler la question. À partir de ça, ça a l'air idiot, c'est pas tout simple. Mais c'est sûr que si on veut voir l'effet d'un produit, d'un médicament, provenant le médicament, parce que c'est assez simple à comprendre, on va regarder si tel traitement donné pendant tant de temps, tous les 3 jours ou tous les jours ou une fois par semaine, à telle dose, va modifier un critère précis qu'on va appeler le endpoint principal, et puis il y en aura d'autres. Mais on va être très précis, on va avoir un critère de mesure. Ça va être la survie, par exemple, ou ça va être le score d'évaluation de la douleur, ou ça va être la guérison d'une infection donnée. Voilà, il faut un critère très précis. Parce que quand on voit des stratégies thérapeutiques, on dit « Ah ben, il y a ce truc-là, il est bon pour le foie, il est bon pour les reins, il est bon pour machin », vous imaginez comme la question est posée. Ça veut dire quoi qu'un truc soit bon pour le rein, par exemple? Qu'est-ce qu'il va faire aux reins? Ils vont bien, les reins, il faut leur fiche la paix, s'ils ne sont pas malades. Mais si on dit que c'est bon pour les reins, quoi, la fonction du rein. Il y a plein de choses dans la fonction du rein. Or, c'est souvent ce qu'on entend dans des approches dont on va parler s'il nous reste un peu de temps. Parce que c'est quand même un peu le cœur du sujet aussi. Donc, il faut rechercher les articles pertinents. Il faut les évaluer un par un de façon extrêmement stricte. Et après, on va arriver à des conclusions qu'il va falloir intégrer dans la pratique médicale. En fin de compte, c'est ça. Donc, on donne un grade. Enfin, la Cochrane Collaboration et l'Evidence-Based Medicine et les conférences de consensus vont donner un grade, une note aux études publiées. A, c'est vraiment là, c'est hyper solide, on peut y aller, c'est vérifié par plusieurs études, des grandes équipes, on en a audité, on revient des fois jusqu'au cas individuel quand on audite. On ne regarde pas juste simplement le texte de la publication. Un vrai audit, on va sur site, on regarde les dossiers individuels des patients, etc. C'est pas de la rigolade, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est pour ça que beaucoup de gens veulent s'en passer. Bah, parce qu'on est paresseux, spontanément. Grade C, très faible niveau de preuve. On pense que, mais franchement, il y a du boulot encore à faire. B, c'est intermédiaire. Donc, on classe les publications, et puis après, on fait le bilan. Et par rapport à une question précise donnée, et pas une autre, on va dire, voilà, on a établi suffisamment les preuves avec suffisamment d'études de grade A ou pas, et dans ce cas-là, on va faire. Alors, quand on se trouve devant une question, on va dire, quelle est la stratégie thérapeutique pour traiter une maladie de Alzheimer à tel stade, ou des troubles cognitifs mineurs qui seraient peut-être un début d'Alzheimer, ou pour une arthrose, ou pour un je sais pas quoi. On n'a pas la réponse solide, mais on a des patients qui sont en face de nous. Donc on va lui dire, ah bah, je suis désolé, on n'a pas les trucs, donc on ne peut rien vous dire. Pour un médecin, c'est intenable. Le médecin, il doit apporter quelque chose, il doit apporter un espoir, etc. On ne va pas dire, revenez dans 20 ans, parce que je pense qu'on aura trouvé quelque chose. Donc, ce qu'on propose au niveau de l'evidence-based medicine, sans faire d'entorse à la rigueur du raisonnement, c'est de dire que aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. On a des pratiques qui existent, on a des impressions, eh bien on va les prendre parce qu'on n'a rien d'autre. Il faut bien dire quelque chose aux patients. Peut-être que ce n'est pas faux d'ailleurs, mais peut-être que ce n'est pas vrai. Et probablement c'est peut-être pas trop vrai. Mais on est obligé. Mais on le reconnaît comme tel. On sait que c'est comme ça. Et on sait que derrière, il y a des grosses études qui sont peut-être en cours d'ailleurs et qui répondront à la question et qui permettront de prendre plus sérieusement en charge le patient. Alors évidemment, on est obligé de parler de l'effet placebo. L'effet placebo, ça a été une découverte extraordinaire. C'est l'effet positif que va donner un médicament sur nous, alors qu'il n'y a aucune substance active. Donc ça, c'est le fruit des statistiques. C'est le fruit de la méthodologie moderne, l'effet placebo. C'est qu'on l'a découvert, et il est flagrant dans toutes les études. Donc on ne croit pas l'effet placebo. Il existe. On ne peut pas faire une étude clinique sans avoir dans 20-25% des cas, ou 30% des cas, un effet placebo. Donc, c'est un fait établi, hein. Donc, et il est intégré dans toute la méthodologie. On sait qu'il y a un effet placebo. Mais, attention, alors, on peut avoir l'inverse, hein. On peut avoir un effet nocebo, c'est-à-dire on peut avoir des effets secondaires alors que d'un produit, alors que dedans, il n'y a rien. Mais, on va trouver des nausées, un machin, des douleurs, un truc. On ne sait pas comment il fonctionne, l'effet placebo. On ne sait pas ce qui se passe trop. Il y a beaucoup de théories sur comment il y a une suggestion du patient qui fait qu'il va ressentir telle ou telle chose. Il faut savoir que le placebo, l'effet d'un placebo, il va pas marcher sur tout. Si vous avez un effet favorable d'un médicament alors qu'il n'y a rien dedans, vous n'allez pas guérir de vos trucs, vous n'allez pas normaliser votre tension artérielle, vous n'allez pas guérir votre diabète, équilibrer votre diabète. Ça va marcher sur certains symptômes fonctionnels très précis. Ça va être sur un peu l'état de fatigue, sur l'état nauséeux, des vomissements, des maux de tête, des choses comme ça, très subjectives, qui, comme par extraordinaire, sont justement les symptômes sur lesquels un certain nombre de médecines dites alternatives, parallèles, tout ça, on en parlait, auxquelles elles s'attachent. C'est exactement les mêmes symptômes, d'ailleurs, qui sont adressés par ces thérapeutiques que celles qu'on a dans l'effet placebo, par nature. Donc, quand on veut, là on revient aux médicaments, mais encore une fois tout ça c'est applicable. Un dispositif médical c'est pareil, une chirurgie c'est pareil, il faut passer dans la même méthodologie. Pour le médicament, parce que le placebo c'est quand même surtout le médicament, on va voir le placebo et l'acupuncture, hein, et d'autres choses. Donc, comme on sait que si on donne un traitement pour une pathologie donnée, on va s'intéresser à pas mal de symptômes et on va dire, ah oui, mais il y a l'effet placebo, alors comment on va faire la différence entre... Donc il faut toujours avoir une méthodologie avec des sujets complètement comparables et tirés au sort et en double aveugle, de façon à ce que le patient ne soit pas influencé par la connaissance qu'il a du traitement qui a été donné. Comme ça, dans les deux groupes, il y aura le même effet. Parce que si on dit au patient, on vous tire au sort, machin, tout est fait nickel, on a randomisé comme il fallait, mais qu'on n'a pas fait de double aveugle, c'est-à-dire que le patient sait qu'il a eu le placebo, parce que si on fait contre placebo, c'est-à-dire avec un comprimé où il n'y a rien, par rapport à un comprimé qui a la même allure, même couleur, même machin, dans lequel il y a le produit, il peut être influencé. Et double aveugle, parce que le médecin aussi qui va évaluer le truc ne doit pas savoir non plus ce que le patient a eu. Et le double aveugle, où à la fois le patient et le médecin sont ignorants du groupe dans lequel se trouve le patient après tirage au sort, va permettre d'éviter tout système de suggestion. Donc on met à égalité les deux groupes, on voit comparer, et dans le groupe placebo, on aura un effet placebo qu'on va défalquer pour certains symptômes fonctionnels dans l'autre groupe. Donc ça permet, un peu quand on pèse un truc, on fait la tare. Une tare, il y a un bruit de fond, ben on le supprime avec ça. L'effet placebo, oui, bon, il y a un historique sur comment l'idée est venue qu'il pouvait y avoir un effet placebo, et ça date de 1800, c'est assez extraordinaire. C'est des Britanniques. Voilà. C'était le système d'extracteurs de douleurs. Un type, il s'était fait un très bon business avec des baguettes, il les mettait, ça n'a rien à voir avec les sourciers, mais ça rappelle, un élage spécial qui coûtait un prix fou, bien évidemment, et puis on faisait disparaître les douleurs. Et puis ben, il y a un type qui a fait la même chose, mais il a mis des trucs en bois ou en os, etc. Mais apparemment, ça ne se voyait pas. Et il a eu les mêmes résultats. Donc il y a eu des marches comme ça qui se sont dit, ben, il y a eu une suggestion, il y a eu quelque chose qui n'est pas lié du tout à l'alliage en question dont parle le type qui lui permet de vendre son truc très cher. Ça, j'ai un peu dit en fait, ça s'applique à des symptômes fonctionnels, c'est variable suivant les individus, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à l'effet placebo. Et puis, ça dépend du médecin ou de l'équipe soignante. Quand quelqu'un est supposé avoir un savoir extraordinaire, le grand professeur de trucs ou machin, ou un médecin qui a une relation relationnelle particulièrement efficace avec le patient, qui a sa blouse blanche, qui est environné d'un environnement technique un peu impressionnant, qui va peut-être donner plutôt un traitement intraveineux qu'un truc en comprimé, qui va, etc., on va avoir des résultats différents. On sait que la couleur de comprimé influe l'effet placebo, la taille du comprimé, la notion de dose. Et le fait de prescrire, il y a eu des observations de produits qui avaient un certain effet placebo, qui traitaient des trucs fonctionnels, et puis on a supprimé l'obligation de prescription médicale, donc il n'y a plus besoin d'ordonnance. Et bien ces produits sont devenus d'un seul coup moins efficaces dans l'esprit des gens. Il n'y a pas eu le geste de l'ordonnance. Il y a énormément de facteurs, c'est assez compliqué. Alors, la médecine basée sur l'épreuve, toujours, il y a plein d'erreurs possibles, il faut faire très attention. D'abord, quand on tire au sort des patients, on peut avoir un effet de hasard qui va faire que, dans une étude donnée, ah ben oui, ça se trouve comme ça, on a eu un biais de tirage au sort, c'est comme ça, c'est le hasard qui fait qu'on a un biais considérable. Et des biais, il y a plein de biais possibles. Il y a des effets centres. Quand on fait toujours des études multicentriques maintenant, et quand des fois on a un centre qui ne se comporte pas comme les autres. Il a moitié patient du groupe A, moitié du groupe B, et il est différent des autres, on le voit statistiquement. Donc c'est un effet centre, il y a différents facteurs, on ne sait pas toujours pourquoi, mais en tout cas, on le connaît l'effet centre, c'est bien connu. Donc si on a fait l'étude que dans un centre, on peut avoir un résultat particulier. Donc il y a plein de choses qui font que quand on est un méthodologiste des essais cliniques, ça a été un peu mon métier quand même pendant longtemps, eh bien on sait qu'il y a ces biais possibles, il y a ces erreurs possibles, donc on s'en méfie comme de la peste. Et puis la fraude, toujours la fraude, qui est possible. Parce que les gens qui font des essais cliniques sont des êtres humains. Alors, on fait, bon, ok, on intègre, bon j'avance, Alors, la médecine basée sur l'épreuve, c'est très bien, donc ça permet d'établir des trucs. Mais il faut voir aussi que dans la médecine moderne, il y a un facteur énorme qui va faire la médecine de demain, celle que vous commencez à avoir aujourd'hui, mais que vous n'avez pas encore vue vraiment, qui est la médecine personnalisée. Et la médecine personnalisée, ça vient de moyens de diagnostic extraordinaires. Ça vient de la connaissance du décryptage du génome, ça vient de la découverte de biomarqueurs extraordinaires, qui fait qu'on se rend compte que quand on a une maladie donnée, eh ben, on n'a pas la même maladie que l'autre, que le voisin qui a la même maladie apparemment. Et ça, on le voit de plus en plus dans tous les domaines. Parce que ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de pathologies, prenons l'hypertension artérielle, vous avez quelqu'un qui a une certaine niveau de pression systolique et de pression diastolique. Vous en avez un autre qui a les mêmes chiffres. Ben, il y en a un, vous allez commencer avec un certain traitement, vous allez normaliser la pression artérielle. Et puis un autre, non. Ah, il ne répond pas bien à ce traitement. Vous allez ajouter un deuxième. Vous démarrez avec un anticapsique, un IAC, un machin, un diurétique, tout ce que vous voulez. Vous allez en ajouter un deuxième, peut-être un troisième. Vous allez, et l'autre, il n'y a pas eu besoin. Donc, quelle est la différence entre ces patients? Vous prenez un patient qui a un cancer donné, le même type histologique, le même stade d'évolution qu'un autre. Et vous allez donner une chimio, il y en a un qui va avoir une très bonne réponse à la chimio, et l'autre non. Vous en avez un qui va perdre ses cheveux terriblement, l'autre, même pas, ou qui va avoir des problèmes. Quelle est la différence entre ces patients alors qu'ils ont la même maladie, apparemment? Eh bien, ils ne sont pas pareils. Et ce qui est intéressant, au lieu de dire, comme on faisait jusqu'à maintenant, quand on donne une chimiothérapie, il y a des répondeurs et des non-répondeurs. On avait la solution. Ah ben oui, il y a 20% de non-répondeurs. On était content parce qu'on avait un terme. Il y avait les non-répondeurs. Et puis il y avait des gens qui faisaient l'effet secondaire et pas d'autres. Quand on voit qu'il y a 30% d'effets secondaires très forts, de telle nature, dans le truc. Et il y en a 70% qui n'ont pas. Oh, c'est curieux ça. Alors, si on le savait avant, on pourrait peut-être ne pas donner le même traitement. Si on sait qu'un patient qui a un cancer du sein ne va pas répondre à un traitement, une chimiothérapie, ben, si on le sait avant, si on arrive à le savoir avant, on ne va peut-être pas lui donner ce traitement-là. On va lui éviter un traitement inutile pendant lequel la maladie va progresser et avec des effets secondaires dont on peut se passer. Et si on sait que telle personne va réagir dramatiquement à telle chimiothérapie, ben, on ne va peut-être pas lui donner parce qu'il y a peut-être d'autres solutions. Donc toute la médecine nouvelle, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire que les patients ne sont pas les mêmes et on va essayer de décortiquer ce qui se passe pour voir quels sont les sous-groupes de patients, qu'est-ce qui les différencie et quelle implication on a sur le diagnostic, sur le pronostic, sur l'évolution. Pourquoi il y a une patiente qui a un cancer de... Pourquoi quelqu'un qui a un cancer du pancréas, on sait qu'en moyenne, on a à peu près 4 mois de survie. Les chimiothérapies ne sont pas très efficaces, mais c'est en moyenne. Mais il y a des gens qui vont durer très longtemps avec leur cancer du pancréas et il y en a qui vont mourir très vite. C'est la moyenne. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Comment on va pouvoir traiter tout ça? Donc, on est obligé... Enfin, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'arriver dans ce degré de finesse sur l'identification des patients et sur l'adaptation de solutions adaptées à chacun qu'on va pouvoir donner. Et on le fait, et maintenant, on a des trucs. Le cancer du sein, maintenant, c'est courant. Ça fait déjà assez longtemps. Hein, on mesure des récepteurs... Hein, si on a le récepteur R2, eh ben on sait que telle chimiothérapie ne va pas marcher, mais on va donner de l'herceptine. Si une patiente a un récepteur à l'estrogène ou des récepteurs à la progestérone, on va les déterminer. On sait que s'ils ont ni R2, ni récepteur estrogène, ni récepteur progestérone, ce qu'on appelle les triples négatifs, on sait qu'ils vont être vachement durs à traiter. Tout ça, on affine, on a des données, et déjà, aujourd'hui, les stratégies thérapeutiques ne sont plus les mêmes. Alors qu'avant, on avait un cancer du sein avec une certaine histologie, un certain stade d'évolution, avec des ganglions ou pas, avec des métastases ou limités de telle façon, on considérait que c'était pareil. Eh ben non. Donc maintenant, on est déjà dedans. Hein. Ce n'est pas du futurisme. Et on l'est de plus en plus. C'est pour ça que quand on parle de médecine actuelle moderne, il y a les nouveaux traitements, machin, il y a surtout les évolutions dans le diagnostic et la recherche de nouveaux biomarqueurs qui vont permettre, peut-être pas avec un seul biomarqueur, mais avec un petit panel de biomarqueurs, de définir, tiens, monsieur, vous êtes dans tel groupe, ou madame, et c'est ça qui va vous convenir, et vous êtes différent de l'autre. Et donc, on va vous traiter différemment. Mais derrière, il faut faire plein d'études pour vérifier que pour tel sous-groupe. Donc, ça devient très compliqué. Il y a un travail énorme à faire. Et en faisant ça, on diminue les populations. On crée, en fait, des maladies rares. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux maladies rares. Les maladies rares, c'est quand il n'y a pas beaucoup de patients. C'est sûr que si on prend une pathologie courante, comme le cancer du sein, le premier cancer en fréquence chez la femme, et puis qu'on le tronçonne en petites populations, on va avoir des petits effectifs. Ça va être beaucoup plus compliqué en termes d'essais cliniques, à tout point de vue. Et quand on développe un nouveau traitement, en termes de remboursement, je dirais, de l'investissement de R&D, eh ben, il y aura pas beaucoup de patients qui vont avoir à rembourser, donc les traitements vont être très chers par tête de toute. Donc ça entraîne tout un ensemble de conséquences sociales, économiques, etc., évident. Donc on crée des maladies rares, en fait. Parce que on dit qu'il y en a qui ont R2, mais c'est peut-être, il y a peut-être y avoir 5%, hein, donc ça va être un petit groupe. Donc il va falloir le traiter. Comment on va traiter le problème d'une maladie rare ? Génétique, parce qu'en fait, là, c'est de la génétique, tout ça. Le fait qu'on est comme ça ou pas, c'est pas l'environnement qui a fait qu'on avait un récepteur R2. Donc, et c'est là qu'on voit maintenant l'importance de la génétique. Rappelez-vous quand même, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, comme on disait, mais non, tout le monde est pareil, on est égaux. C'est l'environnement, c'est la pollution, c'est le machin, c'est l'éducation, tous les facteurs environnementaux. On a quand même vécu ça il y a quelques dizaines d'années. C'était très fort, c'était une vérité. Mais depuis, on a identifié les gènes et on est capable de décrypter le génome d'un individu complètement. Et pour maintenant, pas très cher. Et bien, on se rend compte qu'en fait, la partie génétique, elle est énorme. Elle est énorme. On n'est pas égaux du tout, du tout, du tout. On est très différents les uns des autres. Donc tout ça, on travaille, on apprend plein de trucs. Bon, voilà, une protéine circulante. Et bien, on sait qu'il y aura peut-être résistance aux cisplatines pour un certain type de cancer bronchique, etc. Donc, tous les jours, il y a des publications dans ces domaines. C'est la nouvelle médecine dans laquelle nos enfants ou nos petits-enfants vont être. Puis d'autres choses aussi. Bon, après, il y a plein de choses. Bon, je ne vais pas vous parler de médecine personnalisée parce que c'est tout un sujet. Donc ça veut dire que c'est terminé la stratégie thérapeutique à Lyon. Il y a le professeur machin qui dit c'est comme ça. Oh là, il ne faut pas dire le contraire. À Bordeaux, c'est différent, etc. C'est fini ça. La médecine artistique. Ah, il y a le grand professeur machin. Il faut aller le voir parce qu'on va être mieux traité qu'ailleurs. C'est un non-sens. Vous allez n'importe où. Vous prenez quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, un niveau même d'un interne des hôpitaux, ou un chef de clinique qui a suffisamment d'expérience, il applique les protocoles, vous serez aussi bien traité et probablement mieux qu'en allant voir le grand Manitou qui passe tout le temps à la télé, le grand professeur qu'il faut absolument avoir vu. Ah, vous n'êtes pas allé voir le professeur machin. C'est stupide. C'est fini les gourous, c'est fini la médecine artistique. C'était de l'art. Donc il y avait des grands artistes et d'autres qui n'étaient pas bons. Mais ça ne marchait pas. Les maestros, parce que c'était de la poudre aux yeux quand même tout ça. C'est fini ça. Hein. Donc l'argument d'autorité, terminé. Il y a des trucs, c'est analysé, on est rigoureux et on traite les patients tous pareil. Et il y a une égalité du coup d'un point de vue éthique et moral, c'est très bien, parce que ça veut dire que tout le monde est mis sur le même plan avec la même égalité de chance. Alors oui, il faut avoir les résultats des études négatives. Hein. Ça c'est toujours intéressant, parce que souvent, quand c'est négatif, on ne publie pas. Bon, aujourd'hui il y a une obligation quand même, hein, et il y a une obligation européenne, il y a une base de données, mais c'est récent, ça fait quelques années. De publication de tous les essais, y compris négatifs. On ne les met pas sous le tapis. Et on dit, tiens, je vais faire 10 essais, il y en a 2 qui sont positifs et 8 qui sont négatifs. Ben, je vais parler que des positifs. Ben non, on tronque la vérité, là. Ce n'est pas de la médecine basée sur les preuves, ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, le truc, mais quand même, ça fait partie de l'info. Donc, l'evidence-based medicine, c'est compliqué, c'est exigeant, c'est très lourd, c'est un travail énorme, fastidieux, c'est un travail extrêmement coûteux. C'est tellement plus facile de faire comme on faisait avant. Tiens, on va prendre 30 patients, ou 50, ou 100. On les bricole, on regarde à peu près les deux groupes, on les tire au sort plus ou moins. On n'a plus assez de personnes pour le groupe, on va en prendre, tiens, on va prendre celui-là. Et puis on va regarder les endpoints, c'est-à-dire les points de jugement. On va aller plus ou moins les voir, puis on va regarder, et puis voilà, et puis voilà. Et puis on regarde, et puis on dit, bah oui, j'ai une étude. Ah, l'étude dit que. Il y a une étude qui vient de sortir et qui dit que. Voilà, c'est un truc horripilant. Quelle étude ? Elle est valable ou pas ? Avant de dire, ah, il y a les études disent que. Si c'est des études comme ça, et il y en a encore. Mais c'est pas bien, et c'est la paresse, c'est la facilité, et ça permet surtout de démontrer ce qu'on veut. Alors évidemment, quand on est dans cette médecine extrêmement exigeante, rigoureuse, et en fin de compte efficace, on arrive dans une technicité extraordinaire de la médecine. Et c'est un peu le reproche, bien sûr, que font beaucoup de gens qui sont attirés par d'autres approches en se disant, mais attendez, on oublie le patient, la psychologie, c'est hyper important. Avec le risque, bien sûr, de penser que tout est psychologique. Si vous avez une septicémie à staphylocoque doré, moi, je veux bien qu'il y ait de la psychologie, mais en attendant, on va déjà essayer d'éliminer le staphylocoque. Si on a une artère coronaire qui est bouchée, on va déjà essayer de la déboucher. Et la psychologie, on verra après. Si on a une cataracte, on va peut-être remplacer le cristallin. Si on a une arthrose de la hanche et qu'on ne peut plus marcher, on va peut-être changer la hanche. Enfin, voilà, la psychologie, c'est bien, il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas oublier non plus la médecine. Donc, entre les deux, la technicité, etc., et la psychologie du patient, qui est importante, on a quand même découvert la psychosomatique. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, on a vu apparaître les groupes Balint, etc. Donc la psychosomatique, les facteurs d'autre psychique sont importants, mais ils ne font pas tout. Donc Le rite, c'est d'oublier tout l'environnement de l'individu, sa personnalité, tous les facteurs qu'il y a autour d'eux, et de voir et d'aller vers une pathologie trop spécialisée, trop réductrice, trop d'organes. Un cardiologue aujourd'hui, en dehors du cœur, au bout de 20 ans d'expérience professionnelle, il ne sait plus, hein, il ne connaît plus l'infectieux, l'ophtalmo, la rhumato, le machin, il connaît le cœur et les vaisseaux. Ça, c'est dommage, c'est risqué. Hein. Mais c'est le problème de la médecine d'organes. Alors c'est vrai qu'il devient très pointu, il sait tout dans tous les sens. Parce que la médecine générale, c'est énorme. Il y a une quantité de choses à connaître. Il faut être vraiment surhumain pour tout savoir. On ne sait pas tout. Mais il y a quand même des spécialités, et comme par hasard, c'est celle que j'ai faite, qui ne sont pas des spécialités d'organes. La médecine interne, c'est tout. C'est l'individu dans son ensemble. C'est tout ce qui est justement pas lié à un organe précis. La pédiatrie, c'est pas une... sauf si on est neuropédiatre ou pédiatre, gastro-entérologue, la réanimation médicale, c'est le corps entier, et c'est tous les organes qui vont pas, donc on est dans tous les organes. Donc, il faut garder une certaine vision holistique, d'où la naissance de stratégies dites holistiques, qui reprochent à la médecine actuelle d'être technique et limitée, et d'être trop focalisée sur les organes, et d'oublier l'individu dans son ensemble. Donc il dit, ah oui, mais attendez, l'approche holistique, c'est important et tout ça. Oui, mais la médecine moderne actuelle, elle peut avoir une vision holistique si elle ne l'oublie pas. Et ça, c'est très important de ne pas oublier que l'individu reste un ensemble et que autant on va être très spécialisé, très pointu dans des domaines extrêmement techniques, etc., autant il y a un individu qui a sa globalité et il faut être bon aussi là-dessus. Donc, ça devient compliqué pour le médecin, le pauvre médecin. Et puis, il faut écouter le malade aussi, il ne faut pas oublier de l'écouter, parce que si on commence, le médecin arrive, dit j'ai ça, allez hop, scanner, machin, IRM, truc, une petite batterie d'examen biologique, puis revenez, vous déshabillez pas, c'est pas la peine, hein, on vous examine pas, je vous écoute pas trop longtemps, vous me dites deux fois, ça y est, je fais les trucs, et puis je reviens les résultats. C'est un peu ça la caricature d'une médecine moderne, rapide, et c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Oui, alors bon, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Bon, il faut faire attention à la communication, parce que dès qu'on a un petit truc, il ne faut pas être impatient. Il y a eu les effets d'antibiotiques dans l'autisme. Vous avez vu des articles il y a un ou deux ans là-dedans. Bon, dès qu'on a un petit truc, on a une petite touche, une petite étude, machin, hop, on en parle. Parce qu'on est tenté. Mais c'est trop tôt. On est en cours d'évaluation. Le nombre de fois où je vois des choses dans la presse où on n'a pas les éléments encore, on a des impressions, c'est très bien, super, on va peut-être avoir le truc du siècle pour traiter tel patient, mais tant qu'on l'a pas, on l'a pas. Donc ne nous précipitons pas, attention aux effets d'annonce, parce que ça c'est pas rigoureux, parce qu'en plus ces effets d'annonce vont avoir un effet sur les chercheurs, sur les gens qui font les études, parce que du coup il y aura une pression médiatique, il y aura une pression de la société, ils vont peut-être moins bien travailler, ils vont aller plus vite parce qu'il y a une pression. Comment ça se fait, ce traitement-là extraordinaire, il n'est pas encore sur le marché. Ouais, attendez, on fait ce qu'on peut, les études sont en cours. Ouais, vous ne vous rendez pas compte, les patients meurent, le lobbying des patients, on parle de lobbying des patients, les journalistes, la collectivité. Donc du coup, les gens vont se précipiter, ils vont moins bien travailler, ils vont bâcler, parce que ce sont des êtres humains, ils vont vouloir aller trop vite. Et donc, ce n'est pas bon, on va mal travailler. Donc, attention aussi aux espoirs qu'on fait naître chez les patients. Alors c'est bien l'espoir, hein, ça fait vivre, mais enfin... Faut faire attention quand même. Bon, ça on l'a dit. Hein. Alors en bas, je rappelle hein, qu'il n'y a pas que les médicaments. Alors la médecine moderne, bon, c'est quand même l'évolution de l'espérance de vie. Hein. Vous voyez quand même que c'est assez net. Hein. Il n'y a pas que la médecine, mais la médecine, moi pour moi, l'hygiène de vie, c'est un peu de la médecine quand même. Et puis la façon de vivre en général, peut-être des travaux, des métiers moins pénibles, etc. Il y a pas mal de facteurs. Enfin, la médecine est quand même là, hein. Les vaccins, la prise en charge, machin, dès que vous avez un truc qui ne va pas, on vous répare. Hein. La mortalité néonatale, hein, ça a été extraordinaire. Ça, c'est les approches rationnelles récentes. Hein, vous voyez comme c'est récent ? L'évolution, la baisse de la mortalité infantile. Avant, on était 300 pour 1000. Ça veut dire qu'un nouveau-né sur trois mourrait. Voilà. Bon, c'est pas trop... Alors, les vaccins. Parce qu'il y a beaucoup de... Bien sûr, c'est à la mode d'être contre les vaccins. Bien évidemment. Les vaccins, c'est quoi, quand même? Ça, c'est la rougeole aux États-Unis. J'ai des chiffres des États-Unis principalement, parce que ils font plus d'études épidémiologiques. On avait les cas de rougeole. Les rougeoles, c'est parfois mortel, n'oublions pas. Faut pas croire que ces petites rougeoles, ça passe et on donne un peu de paracétamol et c'est bon. Donc il y a eu on a les vaccins et la rougeole n'existe à peu près plus. En Afrique du Nord, moi j'étais au Maroc pendant assez longtemps, il y avait des épidémies de rougeole, il y avait une certaine mortalité, parce que la vaccination n'était pas généralisée. Donc ça marche, les vaccins anti-rougeole. Alors évidemment, quand on se retrouve devant le truc, mais attendez, la rougeole, ça n'existe plus. Arrêtons, on vaccine nos enfants pour rien. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est dangereux, il y a des trucs, il y a des adjuvants dans les vaccins, ils vont faire une stérose en plaque, ils vont faire un Guillain-Barré, ils vont faire un truc machin. Toutes choses qui n'ont bien sûr jamais été prouvées en termes de relation de cause à effet. Mais on oublie ça. On oublie les dizaines de milliers de vies qui sont sauvées. Ça, c'est la polio. Il y a les épidémies des années 50. On a vécu un peu partout. Donc là, oh là là, attention, là, parce que c'est assez épidémique, la polio. Le vaccin inactivé, c'était le vaccin de Salk. Après, le vaccin oral, donc vivant atténué, de Sabine. Voilà, vous voyez le résultat. La polio, c'est plus un problème. Sauf dans des pays, aller au Pakistan, en Inde ou machin, et là, vous avez des épidémies de polio. Et vous avez les morts, les paralysies, la vie, etc. On voit encore des gens qui boitent parce qu'ils étaient dans l'épidémie des années 50. Ceux qui ont survécu. Vous vous souvenez, les premiers respirateurs artificiels, le poumon d'acier, c'était pour des polios. C'est la polio qui a démarré, en fait. C'est l'épidémie de polio des années 50 qui a démarré la réanimation médicale, en fait, et la ventilation assistée. Donc, c'est pas de la rigolade, une polio. La polio, d'accord. Ça, c'était les morts. Parce qu'il y a la polio et puis il y a les morts de la polio. La diphtérie, diphtérie, c'est quand même, c'est pour les gens qui connaissent la maladie, c'est pas de la tarte. Le croup, la diphtérie laryngée, tout ça. Ça, c'est la coqueluche, pertussis. Voilà. La coqueluche, c'est pas rien. Alors, des fois, on a levé le pied en se disant, mais attendez, les gens disent, vous pensez, docteur, qu'il faut vraiment vacciner. Moi, la coqueluche, puis le médecin dit, oui, c'est vrai, il n'y a plus. Alors on lève le pied, bam, ça redémarre, très vite, très vite. Après on recommence, on refait. Et là vous avez le pourcentage de couverture vaccinale. Il avait chuté. On recommence et ça rechute. Mais les gens oublient. Tant qu'on est dans la prévention, on oublie les choses. Parce que la prévention, on ne voit jamais ce à quoi on échappe. On vous donne des trucs. Vous n'avez pas de maladie, mais alors pourquoi on a donné ça, c'est idiot. Donc toute la stratégie préventive est compliquée à comprendre. Alors que le curatif, on a une maladie, on va la traiter, on va guérir, on comprend. Alors, on donne des trucs avant d'avoir des trucs, on se dit, mais attendez, ça pareil, il y a des virus influenzés type B, ça c'est pour les nourrissons surtout. On avait arrêté un peu le truc, on a refait, il y a eu plus d'hémophilus B, c'est des otites, c'est des méningites chez le petit. Voilà, ça c'est la varicelle. Il y a des varicelles gratinées, notamment chez l'adulte. Les poumons varicelleux, c'est impressionnant. Voilà. Donc on a beaucoup amélioré non seulement la survie, mais l'état de santé des gens. Il fallait voir avant comment la santé était prise en charge. Bon, là, il n'y avait pas d'anesthésie, rien. C'était terrible. Et quand on voit les vieux livres, par exemple Bruegel l'Ancien, c'est extraordinaire en termes de pathologie, parce qu'il était extrêmement descriptif. Donc on voit plein de maladies historiques qu'on ne voit plus maintenant. Donc il y a des livres sur l'étude des personnages de Pierre Bruegel l'Ancien, avec des pathologies qu'on devine et qu'on décrypte. Voilà. Donc ça, moi, quand j'étais jeune médecin, jeune étudiant en médecine dans les hôpitaux à Paris, je peux vous dire que j'ai vu des trucs invraisemblables. On voyait ce qu'on appelait des pathologies historiques. Des trucs très évolués. Mais c'est fini, on ne les voit plus. On ne voit plus ça. On ne peut plus apprendre ces trucs-là parce qu'on traite avant et on n'arrive plus à ces trucs très évolués. C'était extraordinaire. Moi, je vois des salles de cirrhose, plein de cirrhoses avec des ascites extraordinaires, des gens complètement décharnés et tout ça. On voit toujours des cirrhoses acidiques, mais enfin, c'était des salles entières. On faisait les ponctions d'acide, on s'entraînait, tout ça. Enfin, c'est pathologique. On voyait des cancers dépassés, on voyait des trucs, des tuberculoses très avancées. On voyait des trucs invraisemblables, mais dans tous les sens. C'est fini, il n'y a plus ça. Alors, à côté, de cette... Bon, je ne sais pas si je me retrouve dans mes diapos, peu importe. Moi, je suis les diapos et puis je m'adapte. À côté de ça, il y a des approches différentes de ces approches modernes qui font notre médecine actuelle, qui est la médecine du monde entier d'ailleurs. Il y a une mode qui chaque année est plus forte, qui s'intéresse à pour moi ce ne sont pas des médecines au sens de la définition d'une médecine, qui sont des approches autour de la santé qui ne sont pas basées sur des preuves, qui sont basées sur des affirmations. Alors là, il y a plusieurs termes pour ça, et là on va en parler un peu, je suis désolé, c'est long, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'ai l'œil noir de...
J'ai remarqué quand même, parce que non, pas du tout, on ne s'ennuie pas, hein. Ben... pour ceux qui t'entendent pour la deuxième fois, je dis.
Oui, en plus, il y a une petite variation. Mais le fond est là, hein. Voilà, alors, les termes de ça. Parce que le sujet, c'est la cohabitation entre tout ce que je viens de vous dire, toute cette approche hyper rigoureuse et extrêmement efficace et extrêmement exigeante et qui s'est basée sur toute notre historique de médecine et d'idée reçue ancienne, et des tendances d'être attirées par tout un ensemble d'approches qui, elles, échappent totalement à cette rigueur, à cette exigence. Et cette contradiction incroyable, cette espèce de schizophrénie extraordinaire qu'on a, ça, c'est ça la question, c'est la question que je traite en fait. C'est cette cohabitation qui est assez stupéfiante quand même. On se dit comment peut-on, et c'est les mêmes personnes hein, qui sont attirées par les deux, sans aucun problème. Et là, on se dit, mais attendez, là, on se pose un peu, et on réfléchit. Moi, je suis médecin, je suis patient, je suis patient, donc qu'est-ce que je fais là-dedans dans tout ça, moi, qu'est-ce que je crois, où j'en suis? Qu'est-ce que je crois? Donc, quels sont les termes pour ces autres approches? On peut appeler ça, moi j'appelle ça les médecines, entre guillemets, j'ai pas mis des guillemets, c'est pas bien, basées sur la croyance, parce qu'on croit que c'est bon. Vous croyez en l'homéopathie ou pas? Vous croyez en l'imposition des mains? Vous croyez en l'iridologie? Vous croyez en la médecine quantique? Pas de Kant, K-A-N-T, mais du Kant. Vous croyez en tel truc? Vous croyez ou pas en la radiesthésie? Vous croyez en pas aux sourciers? On est dans la croyance toujours. Bah oui, puisque on n'a pas de preuve. Il y a beaucoup de termes. On peut parler de médecine parallèle, je n'aime pas trop, ça veut dire qu'il y a deux types de médecine en parallèle sur un niveau d'égalité, c'est un abus de langage. On parle de médecine douce, en fait elles ne sont pas douces, la seule chose qui est douce c'est leur efficacité, parce que leur efficacité est d'une douceur extraordinaire, parce qu'elles peuvent être dangereuses. Hein, des médecines alternatives, j'aime pas non plus ce terme-là, ça veut dire qu'on a une alternative, c'est-à-dire qu'on a, en fait, dans une alternative, il y a deux branches, donc il y a une autre possibilité dans l'alternative qui englobe les deux. Ben non, pas forcément. On peut appeler ça les fausses médecines, on peut appeler ça les pseudo-médecines, on peut appeler ça les charlatanismes. Il y a plein de termes, et je veux dire, chacun prend le terme qu'il veut. Il y en a qui, suivant le terme qu'on emploie, on va déjà avoir une tendance de croyance ou pas dans telle ou telle approche. Donc ce n'est pas anodin les termes du tout. C'est pour ça que moi j'appelle ça les médecines, quand même, entre guillemets, non basées sur des preuves. Je ne veux pas tomber dans ces choses-là, je ne vais pas dire les charlatanistes, les fausses médecines, c'est polémique. Je ne vais pas dire les médecines parallèles, les médecines alternatives, parce que c'est ambigu et complaisant, etc. Donc je fais très très attention aux termes qui sont employés. Alors, il y a des gens qui ont donné des définitions. La Commission européenne, elle parle de médecine non conventionnelle. Elle a une certaine complaisance. Parce que à partir du moment où on va commencer à légiférer, parce qu'on légifère sur ces trucs-là, au niveau européen et au niveau national, on va en parler. Il faut donner des mots, il faut appeler les choses. Pour l'Académie de médecine française, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé mieux que thérapie complémentaire. Thérapie, ce sont des thérapies, et complémentaire, ça ne remplace pas. Mais ça complète. Donc, on admet que ça complète et on admet que ce sont des thérapies. Comment ça fonctionne, ces médecines non basées sur les preuves? Au lieu d'avoir le cheminement normal, qui est que on a des témoignages, des observations, tiens, une idée qui germe. On va faire des études rigoureuses pour vérifier cette hypothèse, cette idée. Et une fois que c'est positif, si ça l'est, et de façon vérifiée dans tous les sens, éventuellement, on va peut-être essayer le mécanisme. On va peut-être essayer de comprendre pourquoi. On aime bien à savoir pourquoi, au-delà de la constatation des faits. Mais à la limite, des fois, on ne sait pas. Si on a un traitement extrêmement efficace de la maladie d'Alzheimer et qu'on ne sait pas comment ça marche, eh ben on sera bien content de l'utiliser quand même, hein, si c'est prouvé dans tous les sens. Mais on va vachement bosser quand même pour savoir pourquoi ça marche. Eh ben c'est l'inverse. En général, on affirme un mécanisme, si farfelu soit-il, bon, ça va être une théorie, ça va être partant l'homéopathie, ça va être le principe de mimétisme ou de similitude, ça va être le principe des dilutions extrêmes, etc. On parle de mécanisme, et ce mécanisme va faire office de preuve. Après, on va trouver des observations, des témoignages individuels qui sont jamais vérifiables, qui sont, j'en ai beaucoup parlé au début, hein, je ne vais pas retartiner sur pourquoi c'est dangereux, et ça va faire office de preuve, on va vous sortir des trucs. Et là, mais même avec des gens qui sont assez évolués au niveau du raisonnement, ils vont vous dire, mais moi j'ai pris ça, ou je connais machin qui a eu ça, ça s'est bien passé, tout avait échoué, rien n'avait marché, elle a pris, il ou elle a pris tel traitement homéopathique, et depuis ça va, point barre. Il n'y a pas à discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire devant une affirmation comme ça? Ah ben, et on dit, je suis désolé. On a tout essayé et ça marche. Vous ne pouvez rien vérifier. Vous ne savez pas du tout de quoi il s'agissait. Vous n'avez aucun élément. On vous assène cette affirmation, cette vérité, et vous n'avez plus qu'à l'avaler, tout cru, et à l'adopter. Ah ben non. Pas d'accord. De quoi il s'agit, tout ça. Donc cet argument d'exemple, et on peut en citer plusieurs aussi, dans les traitements anticancéreux, dans les machins, on va vous raconter des trucs. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est les témoignages, vous verrez toujours des témoignages, des observations individuelles qui vont servir de preuve. Et souvent, il y a les deux. Il y a le mécanisme et les témoignages. Il faut les deux. Mais il n'y a pas de preuve. Bon, ça, c'est pour faire plaisir à la zététique. C'est l'histoire du monstre en spaghetti volant. Bon. C'était les relations de cause à effet, toujours. Hein. Ça, bon, je vais passer dessus. Vous connaissez bien. Alors, les médecines basées sur la croyance. Dans Lucky Luke, on avait l'élixir du docteur Doxy. Il était là, bon, il vendait son machin, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, et puis ça avait toutes les vertus. Et bien les gens, ils venaient, ils écoutaient, ils achetaient. Hein. Bon, Lucky Luke, quand même, qui était un zététicien, lui, il a cassé son business. Hein. C'est pas très gentil. Alors il y a tout, le chamanisme, évidemment, l'homéopathie, l'imposition des mains, les pratiques religieuses où on va bénir un truc et du coup ça va aller mieux, je ne parle pas de Lourdes, etc. En haut à droite, vous avez les liqueurs de serpents, d'insectes, machin, la bile d'ours, vous avez la moxibustion, là, en haut un peu à droite, etc. Oui, il y en a plein, c'est pour dire qu'il y en a plein de toutes sortes, hein, des médecines non basées sur les preuves. Alors il y avait avant... Dans les choses comme ça, il y avait les choses non basées sur les preuves, il y avait les croyances. On en a parlé tout à l'heure un peu des idées reçues, mais il y avait les remèdes de ce qu'on appelait les remèdes de bonne femme. Mais on disait remèdes de bonne femme, c'était critique, mais c'était en même temps gentil, complaisant. C'était sympa les remèdes de bonne femme, parce que la bonne femme, il y a bon dedans, c'était bien. Et puis c'est les femmes qui prennent en charge la santé traditionnellement dans les familles, dans la société. Donc il y en avait plein comme ça, hein, le maroudaine dans la poche contre le rhumatisme, des trucs comme ça. Il y avait plein de trucs. Mais il y en a des tonnes, hein. Et c'était ça, voilà, c'était comme ça. On disait, et on était très appétents de ce genre d'informations. Du coup, on avait des solutions, on savait quoi faire, on avait quelque chose à faire. Il y avait des livres là-dessus. Bon, ça, je ne vais peut-être pas réexpliquer tout ça, puisque je viens de le dire, en fait. Donc, surtout, cette approche qui est basée sur une croyance, on croit que ça marche, on a l'impression que ça marche, mais on est convaincu, hein. Souvent, bon, pas forcément, il y a des arnaqueurs, mais souvent les gens sont sincères. On va bien sûr réfuter toute nécessité. Vous dites, mais attendez, il faudrait des preuves. Des preuves, mais vous ne voulez pas, vous rigolez. Des preuves, ça va pour votre médecine moderne, technologique, où on oublie le patient, l'holistique et tout ça. Donc surtout pas. Et puis comment voulez-vous, en homéopathie, on ne peut pas faire d'études cliniques, avoir de preuves. Donc déjà, en général, on botte en touche, parce que faire des études sérieuses, et faire surgir des preuves basées sur du solide, ça veut dire en avoir la compétence, car c'est un sacré boulot, et c'est des métiers de savoir faire ça. Il faut payer pour ça, parce qu'on va faire travailler plein de gens. Ça va avoir un coût, les gens ils vont pas le faire pour vos beaux yeux, ils vont dire moi je veux bien, mais vous me payez pour le boulot. Donc c'est très cher de faire une étude. Et puis, le risque c'est que ça soit négatif le résultat. Si l'étude est bien conduite et que statistiquement on ne voit pas de différence entre les deux groupes, le groupe témoin et le groupe avec le traitement miraculeux, eh ben on aura fait tout ça pour rien. on aura vachement bossé, on aura dépensé un paquet de pognon, résultat des courses, on n'a rien démontré. Alors là, on a les boules. À la limite, mettre des moyens si on est sûr que ça marche. Mais dans une étude clinique, on ne sait pas. Et comme dans ces approches, on est à peu près sûr, par expérience, que ça ne marche pas, c'est vrai qu'on comprend que les gens ne veulent pas faire d'études. Je comprends, hein, moi. À la place des gens, je ne ferai pas. Ah oui, l'argument d'autorité. Oui, il y a des choses extraordinaires quand même. L'argument d'autorité. Parce que souvent, les médecines, les approches non basées sur les preuves utilisent des cautions. Je ne parle pas du professeur Joyeux ou de tous ces mecs-là. Christian Barnard, quand même une référence, la première grève du cœur, c'est quand même une référence en technologie, machin, moderniste. Et bien ce type-là, il a quand même eu la grosse tête, mais vraiment grosse, il a complètement débloqué. Et il est parti, il a fait la promotion d'une crème anti-âge, comme ça, basée sur rien, le nouvel élixir de jouvence. Eh ben, mais alors, et il a mis le paquet. Donc, il s'est complètement déglingué sa réputation. Vis-à-vis de toute la communauté médicale et scientifique, il s'est totalement ridiculisé. C'était une arnaque totale. Alors que c'était le professeur Barnard. Mince, quand même. Alexis Carrel, le Lyonnais, bien connu, la faculté Alexis Carrel, tout ça. Hyper scientifique, tout ça, rigoureux. Eh ben, un jour, il allait à Lourdes dans le train. Il voit une passagère, une jeune fille, qui apparemment était étiquetée comme ayant une tuberculose péritonéale, une acide péritonéale tuberculose terminale, et elle est à Lourdes parce que sinon elle allait y passer. Ben, il la voit dans le compartiment, vous imaginez bien comme il a confirmé le diagnostic et tout ça. Il la voit et il l'a revue après, elle est à Lourdes, ce qu'il y avait au niveau du ventre, ça s'est guéri, et après application de tours, elle a guéri. Donc il est devenu un grand militant catholique, machin, croyant au miracle et tout ça, alors que c'était un scientifique de valeur et rigoureux. On voit le sérieux quand même de l'approche. Donc il faut se méfier des gens connus, des grands scientifiques, au sens comme s'il y en avait des plus grands que d'autres, qui peuvent déraper. Hein ? Montagnier. Montagnier a toujours été nul quand même. Il était connu à l'Institut du Pasteur comme étant une grande nullité. C'est Barré-Sénoussi, Brangé-Vinet, il était nul. Il se trouve que c'est dans son labo, il était chef de labo. Non, mais je sais, parce que moi j'ai des copains à l'Institut du Pasteur. Et à l'époque, parce que j'ai vécu ça, l'arrivée du. Le découvert du HIV, tout ça, c'est des copains à moi qui ont porté le ganglion dans lequel il y avait le premier virus. J'ai bien vu l'histoire, c'était une nullité, mais il était le patron du labo et il avait des collaboratrices très brillantes, oui. Des femmes en plus. Oui, il va rester nous aussi. Et lui, il portait tout. Alors après, il a expliqué là, c'est quoi ? C'est la papaye qui est bonne pour le taf, je sais pas quoi, enfin des trucs. Il est dans des délires totaux. Maintenant, il s'intéresse et il prouve que l'homéopathie est efficace. Enfin, Montagnier, c'est pas une caution scientifique déjà à la base. Mais il avait une bonne équipe. Et du coup, il a eu le prix Nobel, et le pauvre Sherman à Marseille, qui en fait avait vachement bossé, était à la base, il a été évincé du prix Nobel, parce que... il y avait Sherman aussi. Et Sherman, il n'est pas dans le prix Nobel, le truc. Donc il avait les boules, ça a été une injustice totale. Enfin voilà. Donc, alors ces médecines-là, d'abord, il faut savoir que c'est pas nouveau, et que c'était... on y croyait vraiment, hein. Donc je vous ai dit un mot de l'histoire de l'auto-intoxication. Ben, je vous ai parlé de tout ça, en fait, déjà. Donc, on pensait, la grande théorie, pendant des siècles, et encore maintenant, dans certains mouvements de pensée, ma grand-mère maternelle, elle était comme ça, elle pensait qu'on était intoxiqué par des toxines. Et moi, quand j'étais petit gamin, j'ai eu droit à des grands lavages intestinaux, des grandes purgations. Quand je passais là-bas, j'ai le droit de ça, on met un gros bocal, c'était épouvantable, ça se fait plus, je pense. Enfin, ça se faisait dans les familles. Ça se fait encore. Ça revient. Voilà, on nettoyait, voilà, il fallait nettoyer les intestins. Mais il n'y a pas de discussion, c'est évident que c'est bien de nettoyer les intestins, c'est pas très propre ce qu'il y a dans les intestins. Alors qu'on sait qu'il y a une flore intestinale en équilibre, que c'est fondamental, etc. Et aller nettoyer les intestins, c'était quand même une grande aberration globalement, il faut surtout leur foutre la paix, les laisser tranquilles. Voilà, donc on avait l'idée qu'il fallait nettoyer. Donc les saignées, on nettoie, et il y a toujours, c'est ce qu'on appelait le charlatanisme colonique. Il y a eu plein de thérapies basées sur le nettoyage du côlon. Parce qu'il y avait plein de trucs, de la putréfaction du machin. C'est vrai que ça s'élimine tout seul, hein, tout ce qu'il y a, mais ça ne suffit pas. Donc, Toutes ces choses-là étaient des choses auxquelles on croyait dur comme fer et auxquelles on croit encore. Et j'en ai parlé parce que, encore. Alors, les médecines basées sur la croyance, il y en a plein. Là, je vous en mets quelques-unes. Hein. Mais vous imaginez bien qu'il y en a des, vous pouvez les regarder tranquillement, les lire tranquillement, mais c'est juste une petite sélection de trucs très connus. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Les guérisseurs, les marabouts, bien évidemment, parce que ils font leur petit business sur la crédulité des gens. La médecine des osselets en Afrique, c'est quand même assez étonnant. Je connais bien la Chine. Hein. Donc, les croyances à la bile d'ours, les pauvres ours, du coup, c'est épouvantable ce qu'on fait sous pied aux ours. Alors, vous avez vu le reportage là-dessus. La liqueur de serpent, la corne de rhinocéros. Tout ça, c'est horriblement cher. Vous imaginez la preuve qu'il y a de l'efficacité de la liqueur de serpent ou de la corne de rhinocéros broyée, pauvre rhino. Alors, du coup, les rhinocéros sont braconnés, tout ça. Donc, on voit bien quand même que toutes ces croyances-là sont actuellement extrêmement vivantes et entraînent des dégâts environnementaux, écologiques. Alors, si on va donner quelques exemples quand même. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. L'homéopathie, ça va être une science expérimentale, mais on n'a jamais rien prouvé. Alors, il y a eu des tonnes d'études sur l'homéopathie en comparaison avec des placebos. Il n'y en a pas une seule qui montre le début d'un effet. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun début de preuve que l'homéopathie puisse être efficace de près ou de loin, en dehors d'un effet placebo, bien évidemment. Alors, c'était quoi hein? C'est Hahnemann qui disait, c'est quand même lui qui disait ce que c'était. Si on fait tomber une goutte de médicament dans un grand lac, le mélange n'en fera pas un médicament, car la force sera absorbée. Mais en secouant fortement le liquide, ce qu'on appelle la dynamisation, il faut dynamiser, hein, et en frottant la poudre à petite dose, ces vertus sont intensifiées. Selon Hahnemann, quand on confectionne des doses homéopathiques, il y a une force qui passe du fabricant au médicament de façon mystérieuse. Et pour faire transiter cette force, il faut agiter, ce qu'on appelle dynamiser. C'est la base de l'homéopathie. Tout le monde connaît le principe de similitude, tout ça, et des dilutions, mais il ne faut pas oublier que si on ne dynamise pas, ça ne marche pas. D'après Hahnemann. Donc, voilà, donc en fait, il y a un côté complètement occulte et il y a un côté spirituel. Hein, c'est-à-dire qu'on transfère quelque chose de spirituel à de la flotte, hein, en gros. Donc, il y a des conceptions magiques, et bien sûr, il n'y a aucune preuve. Très récemment, il y a un peu plus d'un an, les Australiens ont fait une énorme étude, un énorme travail pour compiler vraiment tout ce qu'il y avait sur l'homéopathie. Ils ont sélectionné 225 études qui ressemblaient à quelque chose, hein, et ils ont conclu, ils l'ont écrit, c'est dans le compte-rendu, qu'il n'y a aucune preuve qui permette de soutenir la pratique de l'homéopathie. C'est simple, clair et net, c'est récent, c'est fait à l'anglo-saxonne, sérieusement, c'est du travail, c'est pas du travail de feignant, c'est... Voilà. Par contre, c'est sûr que la consultation avec l'homéopathe va durer assez longtemps, elle va être très empathique. Et c'est vrai qu'au total, beaucoup de gens se satisfont beaucoup, probablement de la consultation, plus que du traitement homéopathique. Alors, je peux vous parler de l'oscillococcinum, parce que c'est quand même extraordinaire, hein, cette histoire des oscillocoques, une espèce de microbes, ça date de 1918, qui n'existait pas, qu'on n'a jamais vu, revu. Et puis, après, on fait un LISA de foie et de cœur de canard de Barbarie, et on laisse se décomposer pendant assez longtemps. Et puis, voilà, après, on en met un tout petit peu. On le fait se décomposer, le cœur et le foie, pendant 40 jours. Hein, ça, c'est ce que fait Boiron, les laboratoires Boiron, comment ils fabriquent leur truc. 35 grammes de foie, 15 grammes de cœur, dans une bouteille stérile, oui, sinon ça... avec un peu de pancréatique pour digérer un peu les protéines. Voilà, et puis... voilà. Alors, une fois qu'on a stocké pendant 40 jours, on le vide, on le remplit à nouveau d'eau. On fait ça 200 fois. Donc, en fait, on rince 200 fois la bouteille. Et à la fin, le dernier liquide de rinçage, c'est le traitement. À partir de ça, on va mettre sur des petits machins de lactose et on va faire des globules. Et entre parenthèses, j'ai jamais compris comment la théorie de la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste, que j'ai connu d'ailleurs dans le temps, avant qu'il meure, jamais compris comment cette théorie de la mémoire de l'eau pouvait avoir un sens alors qu'après on a des globules, un truc sec. Bon, c'est de l'eau. En plus, c'est des globules. Déjà, la mémoire de l'eau, il faut quand même le faire. Hein. Mais en plus, après, c'est sec. Il n'y a plus d'eau. Je sais pas. Enfin bon, bref. Bon, bref, c'est extraordinaire, le silocoxinum. Regardez autour de vous le nombre de gens qui jurent que par le silocoxinum. Si vous voulez en dire que ce truc-là, ça ne sert à rien. Expliquez-leur ce que c'est et comment. C'est une folie quand même. C'est inimaginable. Donc, je crois franchement que plus c'est gros, plus ça passe. Vraiment, vraiment. Parce que gros à ce point-là, c'est rare. Eh bien, ça passe. Parce que moi, j'ai des gens dans ma famille, oxyococcinum, se marre quand j'avais fait, bah, attends, parce que tu n'as pas pris d'oxyococcinum, bien sûr. Sinon, on est. Voilà. Bon, l'argument, alors on va dire, oui, mais si c'est un placebo, c'est bien, au moins, ça permet de prescrire un placebo. Mais c'est pas bien de faire comme ça. D'abord parce que c'est une tromperie du patient. Et ensuite, c'est pas fiable l'effet placebo. Quand on dit qu'on va peut-être avoir moins mal à la tête dans 25% des cas, eh bien, il y a 75% des cas qui auront toujours mal à la tête. Et on ne sait pas lesquels. Donc c'est pas fiable l'effet placebo. On ne peut pas dire je vais donner un placebo. Il se trouve qu'il y a un effet placebo, mais baser une thérapeutique ou la prise en charge d'un patient en disant c'est pas un traitement. Et c'est très variable, je vous ai expliqué des trucs autour de ça. Il y a eu des trucs là-dessus. D'ailleurs, le Code de santé publique a travaillé là-dessus. On doit informer les patients de façon sérieuse et on ne doit pas leur raconter l'histoire. Ou alors, on leur dit, je vous donne un truc, il n'y a rien dedans, c'est un placebo, et ça va vous faire du bien. Mais l'effet placebo, du coup, il ne va peut-être pas apparaître. L'argument du placebo... Il y a eu des jugements, hein, d'ailleurs, sur l'utilisation de l'effet placebo comme voulu et pratique. La petite tradition chinoise, bon... Je vais passer vite quand même, parce que là, on n'a plus de temps. Hein. J'ai déjà dépassé. Le qi, c'est l'énergie. C'est une des bases. Le qi, c'est un flux énergétique qui circule. Et il circule selon des voies de circulation qui sont les méridiens. Il y a 12 méridiens, comme les 12 grands fleuves de Chine. Il faut savoir que les Chinois ne faisaient pas d'autopsie, contrairement à ce qu'on faisait en Occident. On ne faisait pas d'autopsie. Donc, on voyait... l'individu et le patient de l'extérieur. Et donc, toutes les théories de méridien de tout ça, c'est une vue. Et comme l'homme était considéré comme étant une espèce de résumé du cosmos, donc il y avait tout en lui. Donc, il y avait les 12 grands fleuves de Chine, parce qu'il n'y avait qu'à Chine, hein, pour les Chinois. Le reste, ça n'existait pas. Il y avait les 12 classes, c'était les 12 méridiens. Les 12 signes du zodiaque, tout ce qu'on veut. Pourquoi 12, hein ? Donc, on a dit, ça circule, et il y avait cette histoire de flux énergétique qui n'a jamais été mesuré, etc., qui circulait, et on a défini des points sur ces méridiens, qu'on appelait les points d'acupuncture, et on a dit, on va réguler le débit de l'énergie en faisant des trucs à ces niveaux-là. On peut appuyer, on peut mettre du feu, la moxibustion, on peut mettre du courant électrique, on peut piquer, et souvent, en acupuncture chinoise, moi je me suis fait un peu traiter à Shanghai en acupuncture, dans un hôpital avec le grand professeur d'acupuncture, et ils mettent les trucs, ça fait mal, hein. Ils tournent, et puis après on envoie un peu de courant en plus, ça fait mal, hein. Je sais pas, bien que ce soit une médecine douce, et je suis pas allé chez le pseudo-acupuncture du coin, hein. Je suis allé dans la grande référence à Shanghai. J'avais des cervicagies, je me dis tiens, j'ai regardé ce que ça donne, voilà.
Et alors
Bah zéro. Et je suis allé avec ma femme qui avait des maux de tête, etc. Elle, ça a très bien marché, c'est sûr. Donc, elle jure que en fait, j'ai accompagné, je dis, bah tiens, j'y vais, et puis du coup, je vais te faire pour mes névralgies cervico-brachiales épouvantables, parce que théoriquement, ça marchait, zéro. Le yin et le yang, tout ça, bon, après, c'est toutes les bases de la médecine chinoise. Mais ce qui est important dans la médecine chinoise, c'est de savoir qu'il n'y a pas une médecine chinoise, il y a 5 branches. Et elles sont toutes très différentes les unes des autres. Quand on parle de la médecine chinoise, je ne sais pas de quoi on parle, de laquelle vous parlez. C'est l'acupuncture, d'accord ? C'est la pharmacopée chinoise basée principalement sur les herbes médicinales, aussi les produits d'origine animale, on a vu, et aussi des minéraux, mais surtout des herbes. C'est la diététique, c'est l'alimentation, hein, l'alimentation équilibrée. Hein. Et c'est vrai que avant qu'il y ait la malbouffe, que la malbouffe arrive chez eux, parce qu'aujourd'hui on a une obésité chez les enfants parce qu'ils se bourrent de sucreries et de saloperies occidentales. Donc maintenant il y a un vrai problème d'apparition de diabète et d'obésité chez les jeunes Chinois. C'est un fléau national, parce qu'ils bouffent des tas de saloperies, et avec l'enfant unique, les grands-parents qui considèrent que plus leur petit enfant bouffe, mieux c'est, il est bourre de saloperies, de sucreries et de trucs, donc, alors qu'ils avaient une alimentation très équilibrée. Il y a très peu d'obèses en Chine. Eh ben non, là voilà. Donc tout ça, c'est manger équilibré en gros. Hein. C'est les massages traditionnels, on appelle le Twina ou Anmo, etc. Alors ça, bon, j'adore. Moi, j'étais en Chine 3 semaines en avril. C'est tous les 2 jours les massages, hein, à peu près. C'est extraordinaire. Parce que c'est une médecine, ça c'est autre chose. En tout cas, c'est très agréable. Et on est très bien après. Et puis après, il y a les exercices, le Qigong, le Tai Chi Chuan, etc. Ça veut dire, faut bouger un peu, quoi. C'est-à-dire, faut bouger de façon qui n'est pas violente. Aller faire du squash, c'est peut-être dangereux. Faire de la gymnastique comme ça, tranquille, c'est peut-être meilleur pour la santé. Voilà. Donc ça, ça veut dire faire l'exercice. Ça, ça veut dire se faire tripoter un peu, c'est bon. C'est, franchement, c'est très bien. Ça, ça veut dire manger de façon équilibrée. Bon, ça, ok, c'est les 3 branches très importantes de la médecine chinoise. Bon, moi, j'aime bien que ce soit de la médecine. Hein. Moi, je mets ça plutôt dans l'hygiène de vie. Après, il restait 2 autres. Alors après, est-ce que la pharmacopée chinoise a le moins d'efficacité par rapport à la thérapeutique moderne? Parce que j'ai vécu plusieurs années en Chine, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais dans les milieux médicaux tout le temps. Bah, je peux vous dire que les médecins chinois, ils ne jurent que par une chose, et les Chinois que par la médecine moderne. Et la médecine traditionnelle, c'est l'engouement, il est occidental. Il n'est pas chinois. La seule chose, c'est que c'est très important pour le gouvernement, parce que c'est un truc d'exportation. Il y a un business extraordinaire derrière. Donc le gouvernement chinois accorde beaucoup d'importance à la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, parce que c'est chinois, machin, c'est truc, et ça plaît vachement en Occident. Donc, on a un atout, on l'utilise. Les Chinois, s'il y a un truc qui marche et qu'ils ont, on fait. Voilà, donc, on peut. Bon, alors ça, on peut discuter. Bon, mais après, c'est bien évidemment toute une discussion, mais le sujet est énorme. Et en fait, oui, j'ai mis en bas. En fait, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une philosophie à la base. Hein, ça n'est pas du tout. C'est une philosophie, l'histoire du qi, l'histoire de l'énergie quand on fait du tai chi qui vient du ciel et qui passe par nous pour aller en bas, tous ces trucs-là. C'est pas médecine, c'est pas rigoureux, c'est pas scientifique. Non, mais la question de l'anatomie, j'en ai parlé là un peu aussi. Ouais, alors après, on est dans les symboles. Hein. Le rein, c'est le symbole de la peur de la mort. Le cœur, c'est la joie de vivre. La rate, le machin, tout ça. C'était des vues symboliques hein, que les Chinois mettaient dans ces trucs-là. C'est... Alors, la médecine ayurvédique, on pourrait détailler, on pourrait faire des séances uniquement sur chaque sujet, bien évidemment. Bon, alors la médecine ayurvédique, hein, bon, c'est pareil, on tombe dans des massages et puis des trucs, le beurre clarifié, un peu de purge aussi, tout ça, quoi. Alors ça peut être dangereux, hein. On s'est rendu compte que souvent dans les préparations ayurvédiques en Chine, il y avait plein de métaux lourds, c'était pas très bien. Il y a les études cliniques, il y en a eu, montrent que ça marche pas, enfin ne montrent pas que ça marche en tout cas. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle de qualité ni de suivi de ces produits-là en termes de fabrication. Et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans hein, en général. Voilà, tout ça est bien analysé. Bon, il n'y en a pas trop en France, hein, il n'y en a quasiment pas, donc ça ne nous concerne pas trop. La phytothérapie, bah, c'était l'histoire des plantes. Hein. Alors, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que dans la médecine moderne, on a plein de produits qui viennent de plantes. Et on a tiré tout ce qui était possible, on l'a extrait, on l'a utilisé. En médecine moderne, on n'a pas d'a priori. S'il y a quelque chose qui est bon quelque part, on le prend. On prend. Et il n'y a pas de droit d'auteur, etc. Ça appartient à tout le monde. Et on ne s'en prive pas. On n'a pas d'idéologie, de principe. Par contre, quand on voit que dans un végétal, on va dire, tiens, on va en faire une tisane, une décoction, on va avaler tout ça, parce que dedans, il y a peut-être un principe actif très intéressant. La médecine moderne va dire, ah, ben, on va voir quel est ce principe actif. On va l'isoler, on va le doser, on va bien le voir, on va bien l'étudier, son efficacité, sa tolérance. On ne va pas mettre plein de trucs qui ne servent à rien et qui vont peut-être poser des problèmes. Et on va bien le doser, on va en faire un médicament qui sera fiable, bien étudié, bien carré. Et là, on va pouvoir l'offrir aux gens. Là, non. On dit non, c'est le totem qui compte. On garde la plante dans son ensemble. Le principe étant que c'est beaucoup mieux que de prendre juste la molécule pharmacologiquement active. C'est un principe de base. C'est une croyance que donner le totem, c'est le terme employé par les phytothérapeutes, donner la plante dans son ensemble, c'est mieux que de prendre qu'une partie. Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qui a dit? Qu'est-ce qui a démontré que le fait de donner l'ensemble? Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on sait plus ce qu'on donne. Hein, parce que suivant la saison, suivant la façon dont on a extrait les trucs, qu'on a fait la décoction, on n'a pas la même composition. Il y a une grosse variabilité. Voilà. Et mais il y a beaucoup d'anticancéreux majeurs, le taxotère, canto, cancer du côlon, imagine, très modèle, qui viennent de plantes. Par contre, on a retravaillé la molécule, on l'isole, mais on l'améliore. On diminue sa toxicité et on améliore son efficacité. Le paludisme, le traitement de base, c'est les dérivés de l'artémisinine. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je connais très bien. Eh bien, on prend des trucs qui viennent de Artemisia annua, une plante, et ça vient de la Chine d'ailleurs, on isole le principe actif, on le retravaille, on fait de l'hémisynthèse dessus, et on en fait un produit qui est vachement mieux toléré, vachement plus efficace. Pas de rechute de talus, etc. Donc, on prend ce qui est bon dans la nature, tant qu'on peut, sans vergogne, mais après, on en fait quelque chose qui est fiable, qui est efficace. Donc, on fait du travail derrière. On bosse, en fait, globalement. Et alors, il y a tout, oui, le principe de base que si c'est naturel, c'est bon. C'est le principe de base, c'est philosophique. La nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Dans la nature, il y a la mort, il y a la maladie. La maladie, c'est naturel aussi. Il faut la laisser tranquille. Si on respecte la nature, il y a des venins, il y a des produits toxiques. Hein. Si on prend des baies non contrôlées dans la campagne, dans la garrigue, on va peut-être en mourir. Faut pas. Hein, tout ça. Donc, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. Mais l'idée que ce qui est naturel est bon, est bénéfique et inoffensif par principe, c'est une espèce, c'est un postulat extraordinaire, mais qui est extrêmement apprécié par la majorité de la population. Donc, pas d'études cliniques, machin, les interactions, on ne connaît pas. Il y a des principes actifs dans les plantes, bien évidemment. Voilà. Et puis, elles soignent tout. Hein, quand vous voyez un produit où on vous dit, tiens, ça va être... On va dire, c'est bon pour les reins, c'est bon pour la respiration, c'est bon pour l'appareil respiratoire, c'est bon pour les trucs. Oh, c'est extraordinaire. Quand un truc se prétend être bon sur tout, c'est qu'il est bon sur rien. Enfin, en médecine, c'est une règle générale. Attendez, c'est quoi votre truc? Ça marche sur quoi? Et quand on dit c'est bon pour les reins, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bon pour le foie, ça fait quoi au foie? C'est bon, si le foie va bien, il va bien. Alors ils ont, c'est bon pour mon foie. Mais pourquoi tu prends un truc qui est bon pour ton foie? D'abord, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il va faire à ton foie réellement de bon? On n'en sait rien. Surtout pas. Bon, l'acupuncture. Bon, l'acupuncture. Ça, c'est le début de l'acupuncture, en fait. Je trouvais qu'il avait beaucoup moins mal au cou. Donc d'où l'idée. Le mammouth ayant, quand on lui pique les fesses, ayant moins mal au cou, on s'est dit là il y a un truc. L'acupuncture. Alors l'acupuncture, juste un petit mot, je vais me faire tirer les oreilles. On dépasse trop. Il y a eu plein d'études cliniques. Il y a eu Cochrane qui est passé par là, il y a eu des machins, et sur 3200 essais contrôlés, randomisés, c'est pas rien, il y a eu des tas de ce qu'on appelle des méta-analyses, où on fait une grande analyse de tous les trucs sérieux, etc., et on voit ce qui a été bien fait au niveau méthodologie, ou pas très bien, ou moyennement, et on en tire des trucs, et on a trouvé, c'est pour ça qu'il ne faut pas assimiler surtout l'homéopathie, quelques études qui montraient un bénéfice qui semble prouver rationnel et non contestable de l'acupuncture. Donc il y a des petites choses avec l'acupuncture, quand même. Cochrane Review. Mais attention, ça ne marche pas dans tout, parce que l'acupuncture, on la met à toutes les sauces. Ce sur quoi on a montré une efficacité, apparemment, c'est seulement pour les nausées et les vomissements liés, induits par une chimiothérapie anticancéreuse. Là, j'ai pris le truc tel quel, donc j'ai pas pris le temps, hein. C'est les nausées et les vomissements après une intervention chirurgicale, et puis les maux de tête idiopathiques, c'est-à-dire les maux de tête dont on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Là, il peut y avoir une certaine efficacité. Il peut y avoir, on ne va pas vous guérir à tous les coups, hein. Il peut y avoir une certaine efficacité. Donc, il est reconnu par la communauté Cochrane que l'acupuncture peut soulager certains types de douleurs. Voilà. Donc, il y a un petit quelque chose. Et ça, c'est assez unique. Alors, il y a la question du placebo. On a dit qu'il y a l'effet placebo, parce qu'on est dans les symptômes, il y a un effet placebo. Un placebo d'acupuncture, ce n'est pas évident à faire. C'est-à-dire piquer, contre pas piquer, mais il ne faut pas que le patient s'en rende compte qu'il est piqué ou qu'il ne l'est pas. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites, qui sont intéressantes. Déjà, on enfonce beaucoup les aiguilles en acupuncture, c'est pas... donc souvent plusieurs centimètres. Donc là, on enfonce moins, juste sous la peau. Et le patient, dans les études qui ont été faites, ne voit pas la différence. Donc, quelques millimètres seulement. Voilà. Donc là, ça peut faire un placebo. Un autre, c'est les aiguilles rétractables, hein, les aiguilles télescopiques, comme dans les trucs au théâtre. Je te tue à la fin, ça dure un quart d'heure, avec un faux poignard. Il y a du jus de tomate qui coule. Donc là, on pique un peu, mais c'est rétractable, donc on a l'impression qu'on a enfoncé une aiguille. On essaye, hein, parce que il faut quand même avoir arrivé à une méthodologie qui tienne la route. Voilà. Alors, oui, là, je voudrais raconter. En fait, on ne sait pas du tout d'où ça vient, cette histoire de l'acupuncture, à part cette histoire théorique des Chinois dans le temps. Mais en fait, d'ailleurs, l'acupuncture, à la base, elle était occidentale. C'est compliqué, l'histoire de l'acupuncture. On n'a jamais trouvé, en imagerie, en électrophysiologie, dans tous les sens, quoi que ce soit qui montre l'existence de Brigain et de Qi. Et quand on fait, en plus, des études comparatives avec ces systèmes de façon un peu rigoureuse, et il y a des études où on a piqué sur les méridiens, et on avait un groupe qu'on piquait sur un méridien pour une certaine pathologie, et l'autre on piquait à côté des méridiens. Le patient ne se rend pas compte, hein, il ne sait pas où sont les méridiens. On pique. Et ben, on a les mêmes résultats. On pique sur le méridien ou en dehors des méridiens. Donc, tous les mécanismes qu'on peut dire sur ces histoires de machin, le fait de piquer libère peut-être certaines substances, etc., qui vont avoir un certain effet. On ne sait pas, mais il y a peut-être un truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais démontré que le fait de piquer sur un méridien et pas en dehors faisait une différence. Parce que c'est quand même toute la théorie qui est basée là-dessus. Alors, il y a plein de théories. Bon, mais comme il n'y en a aucune d'établie... Les fleurs de Bach, ça, j'adore. Non, parce que là, d'abord, c'est extrêmement poétique, déjà, les fleurs de Bach. Et puis, c'est quand même... C'est inimaginable, quand même, au niveau du bon sens pour des gens qui ont un peu de... Enfin, qu'on a un cortex qui existence. Alors ça, c'est le catalogue produit de la boîte qui fait les fleurs de Bach. Il y en a une qui c'est pour l'amour, pour traiter l'amour possessif. Un autre c'est pour l'intolérance. Un autre pour traiter les gens qui sont exagérément au service des autres, pour les impatients. Tout ça, ça voilà, donc c'est les fleurs de Bach. Alors après, c'est des huiles essentielles, des machins. Ça, c'est... Il y a une gamme sérieuse, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'un pour l'autre. Hein. Donc vous imaginez bien la prétention qu'il y a d'utiliser du mimulus pour la peur des choses connues. Vous imaginez bien le sérieux de la chose. Vous imaginez bien comment on a montré que ça marchait. D'où ça vient, que ça évite d'avoir la peur des choses connues, sincèrement. Il y a une croyance très forte de beaucoup de gens autour de vous, dans les fleurs de Bach. C'est bien, j'ai essayé, ça a marché sur moi, tout ça. C'est inimaginable, et pourtant, c'est la réalité. C'est sur Internet, si vous voulez en acheter. Alors, vous avez un spray pour les urgences.
Ah oui ?
Ouais. Et il y a eu 5 étoiles, mais il y a eu qu'un avis, donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est à partir de 10,49 euros, à partir de... Ben, c'est pas donné, hein, ces trucs-là. C'est pas remboursé, heureusement. Pour ceux qui reçoivent un choc, ont du chagrin ou des difficultés soudaines. Ça, c'est l'urgence. Il y a des sprays urgence. Il y a un élixir ménopause.
C'est un médecin, Bach.
Ben, je sais pas.
Qui c'est, Bach?
Ben, je sais plus. Faudrait revoir. J'ai su, je sais plus. Non, mais le fait d'être médecin, cela dit, n'est pas une référence. Hein. Parce que des médecins qui disent des conneries, il y en a un paquet quand même. C'est pas le fait d'être médecin, c'est l'argument d'autorité. Oublions le truc, qu'il soit médecin ou pas, ou qu'il soit musicien, ou ça, on s'en fout. L'élixir lâcher prise. Enfin, voilà, bon, voilà, c'est ça. C'est le catalogue. Vous allez sur Internet, fleurs de Bach, et vous pouvez commander vos petits flacons à partir de ça. C'est ça.
C'est il y a de l'alcool dedans, hein. C'est pour ça aussi.
Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein,
oui, mais bon, tu vois, tu vas mieux.
Ouais, mais attends, tu vas mieux, il en faut quand même plus. Hein. Voilà, donc, on entend souvent dire, ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Ah bon? C'est pas vrai, la médecine traditionnelle chinoise fait des morts. Il y a eu des insuffisances rénales toxiques ou hépatiques, etc.
Hein. Non, c'est un microbiologiste. Oui. Ah, voilà. Docteur Edouard Bach.
Oui, non, mais peut-être.
1936,
mais oui, non, mais bon,
chirurgie avec elle.
Peu importe.
Non, mais ça ne veut pas dire.
Oui. Parce que, est-ce que disent les gens, ouais, d'accord, mais bon. On sait bien, mais de toute façon, c'est vrai, quand on est malade, on va aller voir la médecine moderne, on va aller se faire faire un scanner, et puis on va se faire enlever la tumeur, on va se faire faire la chimio s'il le faut, on va traiter son diabète, on va l'équilibrer quand même. On a une infection grave, on a une méningite, une endocardite, un machin, on va faire l'antibiothérapie, sinon on meurt hein, quand même. Ouais, bien sûr. Donc c'est quoi tout ça? Donc quelle est cette dualité, cette cohabitation entre ces médecines, entre guillemets, qui ne sont pas basées sur des preuves, qui sont en fait basées sur une croyance, des affirmations, Si c'est pas une preuve, c'est une croyance, hein. C'est rien d'autre. Je crois que ça marche. Je suis convaincu, je crois. Mais alors, c'est quoi la médecine? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on appelle une médecine? On faisait des trucs là-dessus. Ah, l'ostéopathie, ouais. L'ostéopathie, c'est tout un truc. L'ostéopathie, moi j'ai comme principe que s'il y a un truc un peu déplacé et qu'un type qui a l'expérience validée remet les trucs en place, moi je pense que c'est bien. Donc moi, l'ostéopathie comme ça, ça me va très bien. Mais l'ostéopathie, ça va bien au-delà. C'est aussi un truc général qui soigne tout. On pose les trucs sur, les mains sur la tête, etc. Et ça va faire plein de trucs. C'est de cette ostéopathie-là qu'on peut parler. Femme actuelle, ça c'est tout récent, hein, c'est 6 mars 2016. L'ostéopathie, cette médecine manuelle, soigne tout, presque. Elle ne demande pas, c'est ça. Elle affirme, ça soigne tout, ou presque. Petite concession, soigne tout. Un infarctus du myocarde, un décollement de rétine, une tuberculose, machin. Non, mais attendez, là, c'est quoi, soigne tout. Parce que des maladies, il y en a un paquet quand même, hein. Donc, et là je termine. Ouf.
Non,
parce que c'est des sujets énormes. Hein. Donc il faut. C'est un petit panorama. Hein. La question c'est que pourquoi il y a cet attrait pour des médecines non basées sur des preuves, alors qu'on a une médecine basée sur des preuves qui ne satisfait pas toutes les situations pathologiques, mais la grande majorité. Il y a encore des choses à faire, heureusement. Et puis toute cette médecine personnalisée va complètement changer la stratégie thérapeutique. Donc, il y a des progrès fabuleux à faire. Donc, est-ce qu'il y a une nostalgie? Il y a probablement un aspect de nostalgie du passé, la régression. Les islamistes, ils ont une nostalgie de comment c'était avant qu'il y ait le monde moderne. Il y a des côtés très régressifs et très nostalgiques. Bon, on a le droit d'être nostalgique. La médecine moderne, on n'y comprend plus rien. Avant, on disait Dick 33, c'était simple. Maintenant, ça devient très compliqué. Donc les gens ne comprennent plus cette médecine. Ils vont sur Internet, ils croient comprendre, ils comprennent de travers parce qu'ils n'ont pas les bases, etc. C'est devenu trop compliqué, on aura écrit des trucs. Vous avez un récepteur R2, madame, qui avait un cancer du sein, comprenez? C'est un cancer qui est dans le sein, bon, c'est une saloperie qui est dans le sein. Ah oui, mais vous avez des récepteurs, machin, vous êtes triple négatif. Pff, c'est compliqué comme tout. Tout est très compliqué. Donc, les gens sont perdus. Donc, ils veulent revenir vers du simple. Ouais, il y a un machin, voilà, on prend ça, c'est bon pour les foies, le rein, le machin. Voilà, on avale, on se pose pas de questions, on comprend pas, et tout va bien. On se libère l'esprit, on se facilite la vie, on respire, et on se réapproprie la santé, la médecine, parce qu'elle n'est plus à nous, avec toute la technique qui existe, si efficace soit-elle. Et puis la voie de la rigueur, c'est vachement dur quand même, ça, faut bosser, hein, faut pas être trop feignasse, hein, parce que il y a un sacré boulot pour arriver à faire. C'est tellement plus facile. De dire, allez, on s'en fout de toute la rigueur, de tous les trucs. On prend un machin, on a l'herboriste machin, il y a le type qui connaît bien les plantes, là, dans le coin, là, dans mon patelin en Lozère, il va les trucs, il me fait une petite décoction, une petite tisane, voilà, c'est simple, c'est pas fatigant à comprendre. Et puis, c'est peut-être plus humain, c'est moins technique, c'est moins... Donc, on revient à l'humain. Donc ça, c'est probablement un gros besoin qu'ont les gens. Et puis, on a besoin d'irrationnel et on a besoin de croyance, peut-être. On comprend la démarche rationnelle, mais pourquoi il y a des religions tout le temps? Il y en a de plus en plus, même, il n'y en a pas moins. Enfin, ça dépend où. Bah, parce que les gens ont besoin de croyance, probablement. Enfin, on constate, hein. C'est pas sans porter de jugement, c'est une constatation. Donc là, on retrouve un sujet de croyance, donc c'est pas mal. Et puis on a besoin d'irrationnel aussi, on a besoin de trucs qu'on ne comprend pas comme ça, et de trucs qui nous dépassent. On en a besoin quand on commence à tout comprendre, et que tout est... c'est pas drôle, c'est beaucoup moins au niveau personnel. Puis il y a le rejet du progrès, ouais, le progrès, ouais, mais alors où est-ce qu'on va, la planète, l'environnement, la pollution, la bouffe maintenant industrielle, les trucs, donc tout ça, c'est tout ce progrès, on se dit, mais où est-ce qu'on va finalement, retour à la nature, je vais faire mes tomates, mes salades, mes trucs tout seul, je ne mets pas. Voilà, c'est le retour aussi, c'est un peu cette peur du progrès qui nous dépasse. Parce que le progrès, de toute façon, il avance, rien ne peut. On n'a jamais réussi à bloquer le progrès. Mais il y a ce rejet. Il y a à la fois une attirance pour le progrès, parce que les gens, c'est les mêmes qui vont avoir le dernier iPhone, le dernier machin, le dernier objet connecté, etc., qui en même temps vont être régressifs et dire, ah oui, mais moi, je fais pousser sur mon balcon mes machins, dans ma petite serre, comme ça, une fois tous les 3 mois, j'ai une petite récolte de haricots verts, et je mange mes haricots verts. C'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est assez bobo et intello, globalement. Mais pas seulement. Bon, et puis, il y a ce qui est officiel. On en a marre des trucs officiels. La fac de médecine, les politiciens, tout ce qui est officiel. On en a marre. Terminé, on revient à l'individu. C'est très bien, l'individu. Et voilà, et chacun, on se démerde, et puis on rejette tout ça. Donc là, on fait un pied de nez, on fait un bras d'honneur extraordinaire à tout ce qui est officiel. C'est bien, ça fait du bien, on se soulage. Je pense que ça fait du bien aux gens. Et puis, on ne comprend pas toujours cette démarche scientifique. Ce que je vous ai expliqué sur la médecine basée sur les preuves, qui sait exactement comment on fonctionne et comment on arrive à ces consensus, à ces stratégies thérapeutiques unifiées au niveau mondial et comment on les fait évoluer en permanence, et qui fait fonctionner ça, où c'est publié, tout ça, ben, les gens ne savent pas, ils ne sont pas informés, et vous avez plein de généralistes qui ne savent pas d'où vient ce qu'ils pratiquent. Ils savent qu'ils iront en taule s'ils ne font pas de telle et telle façon. Ça, ils savent bien. Et ils prennent des assurances de plus en plus chères pour ça. Mais ben, il y a intérêt, parce qu'il y a des exemples, il y a de la jurisprudence. Donc, voilà. Et puis, alors, il y a tous les trucs, les médiateurs, les machins, où alors, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne comprend plus rien. Il y a eu un facteur humain extraordinaire avec le père Servier. Ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui est en cause, c'est le père Servier avec son management, etc. Ça, c'est des trucs, c'est un management d'entreprise du Moyen-Âge. C'est inadmissible dans la façon dont il fonctionnait. Donc, c'est un facteur humain, là, qui a joué. Si on était réglo, on applique les trucs, la pharmacovigilance. Il n'y a pas de pharmacovigilance hein, pour la phytothérapie. Pour la médecine pas seulement allopathique, la phytothérapie elle est allopathique aussi, mais pour la médecine on va dire officielle, il y a de la pharmacovigilance, on suit les choses, on rapporte les trucs, on collige tout ça, il y a des signaux d'alerte qui apparaissent, etc. Donc tout ça, si c'est bien appliqué, il n'y a pas de problème. Alors hein, s'il y a un type qui parce qu'il est vieux, il a toute puissance dans sa boîte et il veut ne voir que ce qu'il veut bien voir, là il y a un facteur humain qui est intervenu et qui a posé problème. Et c'est ce facteur humain qui est le problème. C'est pas le médicament moderne avec les méthodologies, parce que le facteur humain a empêché justement la rigueur. Donc au contraire, c'est un argument pour dire il faut de plus en plus de méthodes et de trucs, parce que regardez, comme ça ne manque pas, on triche, machin, et les gens les mieux. Donc attention. Et puis la peur des lobbying, la peur de l'autorité, l'industrie pharmaceutique, les autorités sanitaires, l'agence du médicament. Ils ne savent plus où ils habitent, les gens. Ils sont dans un état de stress incroyable. C'est des gens qui bossent vachement pour être payés à coups de lance-pierre. Ils sont bons, ils sont compétents. Ils s'en prennent plein la gueule tout le temps. Ils ne peuvent plus rien dire. Et puis il y a des intérêts business. Il y a beaucoup de gens qui vivent des médecines basées sur la croyance. Ah, les prix, oui, le prix doux, oui. Ah oui, alors, les médecines douces, c'est moins cher, tout ça. Non, c'est cher. C'est tout un business. C'est un énorme... On va parler des lobbies pharmaceutiques, des machins, ou de l'hôpital qui est cher, les chirurgiens. Ouais, les chirurgiens qui s'en mettent plein les poches d'une façon malhonnête. Surtout, on ne peut pas les excuser. Mais c'est certain. C'est pas tout, c'est pas bien, il faut les poursuivre. Mais en tout cas, ça, c'était dans Femme Actuelle aussi, le même. C'est bien, Femme Actuelle. Hein. C'est très... Voilà, là, on a des tarifs. Hein. Bon, c'est pas donné, quand même. Ah mince, j'ai plein de trucs encore. Oui, la mission internationale, oui. Bon, je passe. Alors, les dérives sectaires, c'est très étudié, ces trucs-là. Ça, donc, par la Mivilude, dont on a parlé. L'Académie de médecine, elle a aussi travaillé. Il y a des rapports qui ont été édictés par les autorités. Je passe. Oui, alors ça, c'est le type qui survit grâce à toute la technologie. Il raconte à sa concierge, sans l'homéopathie, je serais plus là. Est-ce qu'on peut réconcilier ? Voilà, j'arrête. Il faut savoir s'arrêter. Mais en fait, non, juste un mot. L'idéal, c'est que on a des médecins qui sont très efficaces, très scientifiques, qui ont bien écrit tout ça et qui sont solides, rigoureux, tout ça, mais qui ont peut-être pour certains ont un peu oublié l'individu dans son ensemble, oublié de passer du temps avec les patients, d'écouter, etc. Donc, et on a des gens qui s'engouffrent dans ce manque, cette carence, et qui eux, par contre, ont complètement oublié la science et la médecine. Hein. Et donc l'idée, c'est de réconcilier les deux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des gens qui sont au top sur la médecine moderne et qui en plus prennent le temps d'écouter les patients, vont passer trois quarts d'heure et pas cinq minutes. Faut peut-être revaloriser les honoraires des médecins quand même, parce que c'est un peu honteux de voir le prix du généraliste, qu'on paye les généralistes par rapport aux plombiers ou aux serruriers, etc. Il y a peut-être des problèmes. Donc, Est-ce qu'on ne peut pas avoir des médecins qui ont les deux caractéristiques, qui sont très bons en médecine en sciences, donc qui ne disent pas de conneries, qui sont efficaces et qui en plus prennent du temps avec les patients, les écoutent et resituent le patient dans son environnement? Peut-être que c'est possible, c'est peut-être quand même ça la solution. Parce que s'il y a un manque, il y a un manque. Hein. Bon, on prend acte. Si les gens vont vers des trucs non prouvés, ils ont leur raison. On peut juger, mais il faut en prendre acte de ça. Je vous remercie. C'est long, hein.
Non, mais on n'a pas le temps de discuter, c'est tout. Mais...
Non, mais peut-être 5 minutes.
Juste, pour la parole à il y a mon vieux médecin, le prêtre, qui a pris sa retraite.